Bienvenue dans Au Café LVD, le podcast propulsé par La Vraie Dose qui part à la rencontre des entrepreneurs de la vraie vie qui te racontent leur cheminement jusqu'à l'entrepreneuriat et les questionnements sincères qui animent leur vraie vie d'entrepreneur. Au Café LVD, tu vas faire la rencontre de différents types d'entrepreneurs, différents profils, projets, personnalités, peut-être que ce sera leur premier ou leur cinquième projet. Ce qui compte dans La Vraie Dose, tu le sais, c'est de montrer à quel point l'entrepreneuriat est pluriel, c'est-à-dire qu'il y a autant d'entrepreneuriat que d'entrepreneurs et même que de projets, car je pense bien qu'on peut être plusieurs entrepreneurs dans une vie. Donc ici, l'idée n'est absolument pas de fournir une recette magique, mais au contraire de se dire qu'on a chacun notre chance avec nos forces et nos faiblesses à dompter. Si j'ai appelé ce podcast Au Café LVD, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, certes, tu découvres cette conversation entre trois bons potes entrepreneurs, mon invité, toi et moi, au travers d'un podcast. Mais demain, cette conversation, tu pourrais la vivre, et j'espère que tu pourras la vivre, dans un vrai lieu, un lieu physique dans la vraie vie, où la LVD Family pourra se rencontrer, échanger et être solidaire. Ici, on est donc dans une bulle de confiance, presque d'intimité, j'ai envie de dire, où les doutes sont stylés et les échecs, un vrai badge de réussite entrepreneuriale pour devenir le super entrepreneur qui grandit et qui est épanoui dans son projet. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de ce podcast un podcast privé. Il est totalement gratuit, mais par contre, il n'est accessible uniquement que depuis le magletter de La Vraie Dose. Il faut faire partie de la LVD Family, c'est-à-dire être inscrit au magletter de La Vraie Dose que tu reçois chaque lundi pour pouvoir y accéder. Ce podcast n'est absolument pas référencé sur iTunes ou toutes les autres plateformes d'écoute et c'est un vrai choix. D'une part, car comme je te le disais, je veux garantir une ambiance sincère, réaliste, presque de la vraie vie, où la mode n'est pas à l'autopromo exacerbé et au bal de l'entrepreneuriat strass et paillettes, mais où on se dit les vrais trucs, où on célèbre les portes d'armoire et les victoires ensemble avec un max d'inspiration mutuelle. Puis si je dois être honnête aussi, c'est un bonheur pour moi d'inviter des entrepreneurs de tous bords et surtout principalement des entrepreneurs qui débutent leur vie entrepreneuriale, qui sont encore face à un mur entier de questions et encore un mur « je suis gentille ». Mais du coup, c'est souvent leur première interview en podcast en plus. Et je veux qu'ils soient bien. Je veux qu'ils se sentent bien pour dire la vérité et pour que ça les mette en valeur et non pas que ça les mette en porte-à-faux. C'est pourquoi, face à mes invités qui offrent leur énergie, leur parcours entrepreneurial au service des autres entrepreneurs de la LVD Family, je me devais absolument de leur garantir une audience bienveillante, au sens premier du terme, pour de vrai, une audience positive, à l'écoute, qui les remercie pour les sincérités et qui n'est pas là pour les juger. Tu l'auras bien compris, si La Vraie Dose est un média, sa force est avant tout non pas une audience nombreuse, mais une communauté engagée qui s'entraide. Je suis Sarah, fondatrice de La Vraie Dose, le magletter qui envoie chaque lundi à 7h une vraie dose d'énergie et de parler vrai aux entrepreneurs de la vraie vie. Dans chaque magletter, tu retrouveras un édito dans lequel je te partagerai une réflexion sincère qui vient de passer dans ma tête d'entrepreneur, ambiance nature peinture garantie. La chronique « J'incarne et je fédère » dans laquelle on démystifie sévère la communication et le fait de donner plus de visibilité et d'ampleur à son projet. La vraie pépite, la rubrique dans laquelle je te glisse chaque semaine un contenu inspirant pour aller plus loin, une fois que tu auras terminé de savourer ta vraie dose. Et surtout, bien sûr, la double page audio de notre magletter, c'est donc Au Café LVD, ce podcast que tu t'apprêtes à découvrir juste maintenant. Que ce soit la première fois ou la 40e fois que tu découvres un magletter de La Vraie Dose, n'hésite pas à en parler un maximum autour de toi. Ça aidera La Vraie Dose à grandir humainement parce que ça me permettra de faire plein de nouvelles rencontres et donc d'enrichir la ligne éditoriale avec notre affaire d'entrepreneuriat pluriel. Et aussi, ça permettra à La Vraie Dose de s'enrichir économiquement, car plus de gens connaissent La Vraie Dose, plus ça me permettra d'imaginer un joli modèle économique. Or, plus La Vraie Dose fait de money, et plus elle continuera à exister pour l'éternité. Alors, un petit partage sur ton magletter préféré, et tu t'assures une vraie dose d'énergie entrepreneuriale pour l'éternité de ta vie entrepreneuriale à toi aussi. Allez, je pense que j'ai assez bavassé, maintenant je te laisse vivre une nouvelle conversation avec tes bons potes entrepreneurs pour démarrer la semaine. C'est parti pour découvrir un ou une entrepreneur de la vraie vie. Donc, Alice, bienvenue au Café LVD. Comment tu te sens?
Très bien, je te remercie. À l'aube du, j'allais dire à l'aube du mois de janvier, mais on est en février.
Ouais, là, février arrive.
On est à l'aube des nouvelles résolutions et on va le découvrir, mais tes résolutions par rapport au café qu'on avait fait en décembre, je t'avais dit, tu viendras dans le podcast raconter ça. T'as changé d'objectif entrepreneurial comme 100% des entrepreneurs.
De manière complètement inattendue en plus.
Ouais, t'as eu pas mal de déclics sur ton business. T'as eu plusieurs business, donc tu vas avoir des petits trésors de vie entrepreneuriale à nous raconter. Mais avant, pour qu'on puisse mieux te connaître, mieux comprendre qui tu es, qui se cache derrière la tasse de café du jour, est-ce que tu pourrais nous dire, Alice, la fameuse question, hein, tu vas y répondre, la question d'intronisation, qui es-tu en tant que personne humaine ? Qu'est-ce qu'on dirait de toi, or, si on enlève complètement le côté business, entrepreneuriat ?
C'est pas une question facile. Hein.
Ouais. 100% des invités ont introduit la réponse par cette phrase.
Ah, voilà, je ne suis pas l'exception.
Non, c'est clair.
Du coup, moi, je suis Alice, j'ai 27 ans depuis peu. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat depuis toujours. Donc, sans parler du business à proprement parler, je savais déjà en première que je créerais ma boîte.
Ah ouais.
Je savais pas quand, comment. J'attendais que l'idée vienne à moi. Mais je savais, et j'ai orienté tout mon parcours étudiant sur. En sachant que je ferais ça parce que ça m'apportera telle compétence. Donc, en fait, passionnée d'entrepreneuriat, donc c'est des journaux d'entrepreneuriat, des blogs d'entrepreneuriat.
Mais tu saurais dire d'où ça vient, ça ?
Eh bien, je ne sais pas. Non, honnêtement, je ne sais pas.
Ok.
Je savais que moi, je voulais faire de l'alternance, par exemple, depuis même ma première ou... Après le bac, je disais, je ferai de l'alternance parce qu'il me faut des compétences, il me faut un savoir opérationnel parce que si je veux créer ma boîte et si ça arrive plus vite que prévu, il faut que je sois OP.
Si ça arrive plus vite que prévu,
voilà,
si ça
arrive de manière inattendue, une fois. Mais du coup, moi, en première, quand j'ai dit « Papa, maman, je vais faire de l'alternance », copain, copine, je vais faire de l'alternance, en fait, on m'a regardé, on m'a dit « Mais Alice, t'es complètement... »
Oui, c'était
moins à la mode, j'étais presque toute seule à vouloir faire de l'alternance. Les gens m'ont regardé en mode zombie. Genre « Mais pourquoi tu veux faire de l'alternance ?»
Pourquoi tu veux aller faire de l'expérience professionnelle avec la théorie, c'est beaucoup plus pertinent pour une carrière.
Et du coup, j'ai fait de l'alternance. Alors, pas à la sortie de mon bac parce que je me trouvais encore un peu jeune, mais du coup j'ai pris un parcours, un DUT qui m'a permis en deuxième année
dès la deuxième année.
C'était un vrai choix de ne pas en faire dès la première parce que je ne me trouvais pas assez mature et je ne me sentais peut-être pas prête à me lancer dans le grand bain. Mais du coup j'ai choisi une formation qui m'a permis en deuxième année d'intégrer l'alternance. Donc depuis ma deuxième année, en fait, j'ai fait de l'alternance tout en ayant en tête qu'un jour je créerais ma boîte et voilà quoi.
Et qu'est-ce que ça dit de toi, d'après toi, ce côté très entrepreneuse ? Est-ce que t'es quelqu'un d'entreprenant ? Est-ce que c'est un besoin d'indépendance ? Qu'est-ce que ça dit de toi ?
Contrairement à ce qu'on pourrait... Enfin, moi, j'étais timide, mais maladive, petite. C'est-à-dire, je ne pouvais pas répondre aux téléphones.
Et là, tu vois, c'est drôle, mais 100% des entrepreneurs disent ça aussi, tu vois.
C'est dingue. Et en fait, je ne pouvais pas lâcher une guette de pain, par exemple. Enfin, c'était genre complètement... c'était... au-dessus de mes forces, et si je parle de ça, j'avais quand même... c'était genre au début du lycée. Donc du coup, me dire, est-ce que j'avais quelque chose à me prouver quand petit je disais, je veux créer ma boîte, est-ce que j'avais besoin un peu de me démarquer ? Peut-être que ça en faisait partie à l'époque, parce que je rêvais un peu de briller. Moi, j'étais la fille qui était enfermée, réservée, qui parlait pas, qui était sage à l'école, j'ai jamais fait de bêtises dans ma vie, des soirées avec mes parents, tu me posais dans un coin, tu me récupérais 2 heures après au même endroit, enfin... Du coup, peut-être que ça en faisait partie. Après, il ne faut pas lancer pour lancer. Donc, j'ai attendu d'avoir une bonne idée et je ne me suis pas dit à telle date, je lancerai un business. Non, c'est arrivé vraiment... C'est arrivé comme ça. Vraiment, mais un matin, comme ça.
Et pourquoi, c'est intéressant ce que tu viens de dire, pourquoi tu dis il ne faut pas lancer pour lancer ?
Mais il ne faut pas être... Ce n'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. Il faut porter des valeurs, il faut porter un message, il faut porter quelque chose qu'on veut changer, soit dans la société, soit sur un produit, soit une innovation, soit... Il y a plein de raisons pour lesquelles on entreprend, mais il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. Parce que si on cherche à briller, c'est pas comme ça qu'on va briller, en fait. C'est pas... on n'a pas pour objectif dans la vie. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir comme objectif « je vais être une star ». C'est pas...
Les artistes qui sont célèbres parce que ça fait partie de leur métier, les entrepreneurs à succès, ils sont visibles parce que ça apporte à leur projet, mais souvent c'est des gens qui cherchaient pas du tout la lumière.
Mais c'est ça, et du coup, entreprendre pour entreprendre, c'est pas une bonne raison.
Et du coup, comme on a le même âge, donc quand t'étais en première, normalement moi aussi, on est à peu près alignés, à l'époque, quand on était au lycée, l'entrepreneuriat c'était vraiment pas la mode comme maintenant. Ah. Et comment, toi qui dis justement, faut quand même avoir un truc derrière à porter, une vision, lancer pour lancer, juste pour briller, pour faire la diva entrepreneuriale, ça sert à rien. comment t'as vécu cette mode de l'entrepreneuriat? Parce que moi, je trouve que ça m'a un peu gonflée, dans le sens où quand j'ai commencé à aller bosser en start-up, tu vois, à ce moment-là, la digression commence maintenant. C'est parti, digression number one. J'ai commencé à être saoulée parce que j'avais des convictions entrepreneuriales depuis à peu près le début des études et ça m'énervait tellement, comme en plus, la petite nana, la petite jeune, machin, donc forcément, génération Y, la pauvre, elle sait pas ce qu'elle veut faire, c'est une crise hystérique, c'est une lubie, c'est pas un projet. Et ça m'a gonflée qu'on me dise tout le temps, bah oui, c'est la mode. Non, les gars, c'est pas la mode, c'est une envie de vie.
J'ai pas trop vécu ça comme ça, moi, bizarrement. Alors, aussi parce que, bah, du coup, mes premiers parcours, c'était je devais être expert comptable. Donc, quand je suis sortie de mon bac, j'ai fait des études pour être comptable.
Ah, donc, d'accord. Du coup, tu savais que tu voulais entreprendre, ouais. Mais t'es partie sur le
DUT. Oui, je suis partie sur la compta. Je suis partie sur du management après. Et après, sur un master encore management commerce. Donc, tu vois, à la base, en première, c'était de la compta. Hein, donc, un peu... plus terre à terre que l'entrepreneuriat.
Oui, mais ça sert aujourd'hui, tu vois, t'es contente.
Ouais, ça sert aujourd'hui parce que je fais ma compta toute seule.
Eh bah ouais,
c'est quand même
bien,
super
une
pratique.
Liberté entrepreneuriale, tu vois.
Ouais, ça c'est quand même sympa.
Ouais.
Mais du coup, je l'ai pas trop vécu. Du coup, bah, j'avais fait mon alternance dans la compta, la gestion des ressources humaines, enfin, tout ça. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même fait une année off où j'ai intégré une start-up, mais du coup...
Une année de césure
entre le bachelor et le master, parce que j'avais besoin un peu moins de me retrouver moi-même pour différentes raisons, donc j'ai fait une petite pause dans mes études. Je suis pas partie à l'étranger, j'ai pas fait des trucs extraordinaires, mais j'ai intégré une start-up de malade mentale et qui m'a donné en fait toute cette vision et qui m'a... Bon, moi je suis sortie de cette année en disant ma boîte elle sera comme celle dans laquelle je viens de sortir, quoi.
Et tu penses que c'est à ce moment-là où tu as eu la force, en fait, toi qui disais plus tard je me rêvais entrepreneuse?
J'ai peut-être pas eu la force, mais en tout cas je me projetais plus, ouais, parce que j'étais très proche de la DG tout ça, donc du coup je m'imaginais, je me voyais un peu à sa place, ça m'a donné quelques clés quand même d'organisation aussi, sur les services, tout ça. J'étais la 16e employée, je suis partie, on était 50.
Ouais.
Donc j'ai vu un peu tout ça, le recrutement auquel j'ai participé en plus. Donc c'était une mission transverse, mais du coup c'était quand même sympa. Donc cette année m'a été. Et en fait j'ai toujours dit, je suis toujours en contact avec la DG, parce qu'en fait j'ai réintégré cette boîte après mes études. Donc c'est. Gros coup de cœur, j'ai tellement aimé que quand ils sont venus me chercher, j'ai dit oui, j'arrive, je reviens. C'était 5 ans après. Donc. Gros coup de cœur et je savais que ma boîte, ça me donnait les clés pour me dire quand je montrais ma boîte et que je commencerais à embaucher, on n'y est pas, mais un jour peut-être.
C'est important d'avoir des rêves.
Je calquerai un peu quand même sur ce modèle que j'ai eu.
Et tu penses que par exemple, cette DG, elle était un peu pour toi un rôle modèle, une inspiration? Est-ce que tu t'es identifiée à elle et c'est peut-être là que ça a changé? Est-ce que tu as reconnu des choses de ta personnalité en elle ou des convictions que tu avais déjà en toi?
Oui, des convictions. Ouais. Mais après, moi, je suis beaucoup dans avec n'importe qui, que ce soit elle ou avec tout le monde d'ailleurs, je suis beaucoup dans l'observation. Donc moi, cette année off où j'étais au service clientèle, où j'avais pas un poste à responsabilité et tout, mais j'observais tout.
Le fonctionnement de la boîte, donc
j'observais beaucoup et en fait je note dans un petit coin de ma tête et je sais que ça ressortira en temps voulu, quoi.
Et justement, quelles sont les choses que tu as retenues de cette expérience que tu veux répliquer dans ta boîte un jour, puisque ta boîte un jour aura 50 employés?
C'est faire confiance, c'est déléguer, c'est être bienveillant, tout ça c'est des valeurs qui sont hyper importantes. Après j'ai fait d'autres boîtes qui n'avaient pas ces mêmes valeurs et c'était compliqué d'évoluer, c'était compliqué de se lever le matin, c'était moi je voyais que on était toute la boîte, on était une super équipe parce que bah du coup le management était bienveillant, était sympa, quoi, était juste gentil, et je pense que la gentillesse c'est important.
En fait à ce moment-là t'as peut-être pris conscience aussi d'un truc, je trouve qui n'est pas si simple à appréhender, c'est que souvent l'entrepreneur il se retrouve un peu manager malgré lui, c'est-à-dire que sa boîte se développe, mais à la base il n'était peut-être pas venu là pour ça, tu vois.
C'est ça.
Et ce qui est vachement intéressant, c'est que toi tu pars un peu sur la trajectoire inverse, c'est qu'avant même de monter ta boîte, tu as la grosse conviction que les entrepreneurs expérimentés, eux, essayent d'expliquer aux jeunes entrepreneurs, jeunes au sens qui démarrent un projet, c'est que l'équipe ça fait tout, que le management c'est la première ressource de la boîte, etc.
Ouais, c'est il faut les faut on est tous dans un même bateau, donc il faut réussir à emmener et les employés et le codir et les stagiaires, et on va tous vers un même but, et tout ça passe par différents moyens de management, mais qui sont pas... qui sont, en tout cas les miens, ce sera la gentillesse, la bienveillance, la délégation. Enfin, j'ai dit ça aujourd'hui, hein. Peut-être que j'y arriverai pas du tout quand en temps voulu.
N'écoute pas ça, cher employé, voilà, malheureusement.
Mais...
non, non,
c'est pas vrai. Mais dans l'idéal, c'est ça, ouais. C'est ce que j'imagine, parce que c'est ce que j'ai vécu dans cette fameuse start-up.
Et du coup, la petite fille un peu réservée, est-ce qu'elle s'imagine demain vraiment pour de vrai manager 50 personnes ?
Oui, parce que je l'ai déjà fait en fait. Donc c'est me revois le faire. Bon, j'ai fait mon alternance dans un grand magasin, donc dans la grande distrib de luxe. Mm-hmm. Et là, j'étais en tant que manager commercial. Donc là, j'avais des équipes à gérer, donc c'était pas du tout la même organisation. C'était une start-up, c'était un grand magasin, donc c'est un process qui est très long, très lent, très avec plein de strates différentes à valider. Enfin, c'est pas du tout pareil. Mais en tout cas, le management pur et dur, j'ai déjà touché et en fait ça me plaît. Donc voilà. En tout cas, j'ai déjà eu cette première expérience qui du coup pourra s'adapter à mon entreprise par la suite.
Et du coup, ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est qu'on voit que fondamentalement, ton salariat, ou enfin, je sais pas comment dire, ton stagiaire, ton
futur équipe.
Voilà, c'est ça. Bah, en fait, t'as déjà rempli ton bagage d'expérience entrepreneuriale, ou de ton baluchon de ce qui peut être utile pour plus tard dans le salariat. Et c'est vachement intéressant de voir ça, alors même que souvent on fait une espèce de... tu sais, on fait une dichotomie hyper ferme, hyper marquée entre le salariat et l'entrepreneuriat. Alors qu'on voit que dans ton parcours, typiquement, ça a été pour toi une sorte de rampe de lancement. Tu as trouvé des inspirations, ouais, des convictions, des expériences qui te seront utiles demain et tout.
Ah ouais, c'est... je savais... Enfin non, mais j'aime vraiment travailler en start-up. Et du coup, quand j'ai travaillé dans cette première start-up, c'était le feu. Moi, j'étais hyper triste de partir. Je m'étais fait la promesse que je reprendrais mon master. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais un peu promis à mon père, quand même. Mais,
la promesse, c'est la fameuse
donc
promesse.
J'ai tenu ma promesse. Je suis partie à contre-cœur de cette start-up. Mais
j'ai mon bac plus 5.
C'était très bien, voilà. Mmh. C'était la meilleure solution. Enfin, c'était quand même hyper bien que je le fasse. En plus, je suis revenue après. Donc, du coup, c'était cool. Mais entre-temps, j'ai fait du coup le grand magasin. Et après, j'ai fait une autre start-up dans le transport. Donc, c'est vraiment un choix pour moi de me tourner. Et là, pour le coup, la start-up que j'ai faite... avant de réintégrer celle dans le transport, j'étais la première salariée, donc très proche du fondateur. Donc moi, c'est ce que j'aime. Donc on a tout monté. Moi, je suis plus dans le salariat, je suis plutôt orientée service clientèle quand même, donc plutôt gestion du management de la relation client. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé le service clientèle et j'ai tout fait de A à Z. Mais toujours en étant proche du fondateur et du coup en touchant à d'autres missions qui n'étaient pas les miennes, forcément.
Et ça dit quoi de toi, cette passion pour le service clientèle, tu penses ? Qu'est-ce que ça dit de ta personnalité ou de ce que tu veux faire ? Tu parlais de vouloir se lever le matin et d'avoir la foi, quoi.
Ouais. Moi, le service clientèle, j'aimerais faire aux autres, par intermédiaire de ma boîte, j'aimerais faire aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse, moi, en tant que client, les clientes lambda, en fait. Et je déteste, par exemple, qu'on ne me réponde pas. En tant que cliente, si j'envoie un mail au service clientèle, ça me met juste hors de moi qu'on ne réponde pas à ma question, qu'on réponde soit à côté, soit on ne réponde pas du tout. Et en fait, ça, déformation professionnelle. Hein. J'ai toujours été dans le service clientèle, du coup...
Du coup, t'analyses dès que tu contactes.
Du coup, j'analyse et je grince un peu des dents quand il faut que je contacte.
Des fois, tu veux faire un audit gratuit, tu sais, genre, bon les gars, un audit gratuit.
Mais tu rigoles, mais je suis tout le temps tentée de leur dire, mais les gars, ça va pas du tout, hein, arrêtez, parce que vos notes Google, on sait d'où elles viennent. Hein. Et bon, bref, ça me fait vraiment grincer des dents. Et je pense que c'est hyper important, faut pas en faire trop, faut être soi-même. Moi du coup, j'ai une boîte, j'ai un petit service, je fais le service clientèle, j'ai des petites questions auxquelles répondre, mais il faut être rapide, faut pas laisser patienter. En plus, je peux le faire, donc autant le faire vite et bien, quoi.
Tu penses que c'est un peu l'empathie qui parle chez toi ? Ce côté à te mettre à la place des autres, à vouloir fournir, empathie, délivrer la même expérience ?
Oui. Après, mes amis te diraient que je suis pas hyper empathique non plus, quand même.
J'aime bien les franches. Non. Dirais quoi tes potes de toi, ça, d'ailleurs ? Quand on parlait de la personne humaine, je te disais, il y a pas mal d'entrepreneurs de la LVD Family qui ont répondu à cette première question parce que diraient leur pote d'eux. Qu'est-ce qu'ils diraient comme qualité,
pas
comme,
si c'est pas, je pense qu'ils diraient que je suis folle. C'est dur. Je vais leur demander.
Ouais, c'est un piège. Pourquoi tu penses qu'ils diraient que t'es folle ? Parce que tu sors un peu des sentiers battus ?
Ouais, j'ai toujours des trucs, des idées, une idée nourrit une autre. J'ai toujours des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. puis autour d'un verre, ça va tout de suite plus vite, quoi. Autour d'un verre ou deux.
Ouais, voilà, ça, tout de suite, la connexion
nerveuse. Moi, je peux te faire 50 boîtes en une soirée, hein, y a pas de problème.
Et du coup, donc tu fais tes différentes alternances dans des sociétés, dans ce grand magasin et cette start-up. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu es diplômée? Une fois que tu as validé la promesse à la famille?
Une fois que je suis diplômée, le grand magasin m'embauche officiellement.
D'accord.
Donc je reste une petite année.
Et ça te plaît, ça?
Ça me plaît, mais c'est au Havre. Et moi, je suis à Paris et on m'attendait à Paris. Donc, donc je ne suis pas restée indéfiniment. J'aurais pu, mais si ça avait été à Paris, peut-être que je ne serais pas partie aussi vite. Mais là, je suis restée une petite année. Et après, donc c'était des CDD qu'on renouvelait à chaque fois. Et du coup, à un moment, j'ai pas renouvelé parce que j'étais attendue à Paris. Donc je suis rentrée.
Et à Paris, t'as fait quoi alors?
À Paris, j'ai intégré la start-up dans le transport.
D'accord.
Pendant un an. Mm-hmm. Et après, ma start-up de cœur, même si toutes mes start-up et toutes mes boîtes super corporate et je les aime toutes. Hein, mais celle, voilà, la toute première pour laquelle j'ai travaillé, est revenue me chercher.
En salarié.
Un an, en tant que salarié. Mm-hmm. Voilà, un an en me disant, écoute Alice, ta responsable s'en va. Ton ancienne responsable de il y a 5 ans s'en va, est-ce que tu veux le poste?
Oui, écoute, je vais te dire, c'est oui ou c'est oui.
On signe où?
T'embêtes pas, c'est d'accord.
C'était un peu ça, toi c'était un peu ça, et du coup, là pendant cette boîte-là, j'avais mes chaussettes chéries, donc c'était ma première boîte, je faisais tout en parallèle, parce que du coup j'ai toujours eu mes. Parce que j'ai lancé ma première boîte pendant que j'étais en master.
T'étais étudiante.
Ouais.
Ah donc, ta première expérience entrepreneuriale, c'était encore en alternance.
J'étais à l'école.
À l'école même.
Oui, bah du coup, je faisais l'école, l'alternance et la boîte. Je m'ennuyais pas.
Il y avait. Alice, elle aimait bien avoir mille vies. Elle était déjà entrepreneuse.
C'est un peu ça.
Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous pitcher, nous expliquer un peu ce que c'est mes chaussettes chéries? Parce que ça va forcément nous faire comprendre quel est ton projet d'aujourd'hui. Donc,
c'est ça.
Ça va faire un retour dans le passé.
Et bien, mes chaussettes chéries, en fait, c'est des chaussettes. Ouh,
le nom était bien trouvé. Voilà. Équivoque.
En fait, c'était à la base, c'était des box par abonnement qui envoyaient deux paires de chaussettes made in France et de saison et de qualité et pas trop cher par. Tous les deux mois. Voilà.
Ok.
Par trimestre.
Ok.
Par saison, en fait. Exactement. Et donc, voilà, moi, en fait, je me suis réveillée vraiment un matin. J'étais vraiment étudiante. Donc, moi, j'avais pas. Je savais que je serais un jour, mais encore une fois, je savais pas quand, et encore moins quand j'étais étudiante. Hein. Et vraiment, je me suis levée un matin et je me suis dit. J'ai toujours été fan de chaussettes, donc toujours des tiroirs qui.
T'as toujours des chaussettes Cali quand même.
Des chaussettes. Voilà, mais en vrai, j'ai pas toujours eu des chaussettes Cali. Hein. Là, c'est parce que je suis dans le monde de la chaussette. Mais
c'est parce que je suis une professionnelle de la chaussette désormais.
Ouais, voilà. Mais ma première idée de faire des chaussettes, c'est parce que justement, je n'avais pas de chaussettes de qualité, de saison, qui n'étaient pas défraîchies, pas boulochées, pas tout ça. Et j'ai ouvert mon tiroir un matin et je me suis dit, mais attends, j'ai fait du shopping tout le temps. Pourquoi je ne pense jamais à acheter des chaussettes? Ça me prend la tête. J'en ai pas des bien, des sympas, des courtes pour aller avec ce type de tenue, des hautes, des machins, des trucs. Je me suis dit, mais voilà, si on pouvait me les livrer régulièrement à chaque saison pour avoir des paires de qualité à pas trop cher et de saison, et bah voilà, en fait. Et voilà. Je suis descendue au petit-déj, j'ai dit, maman, c'est bon. J'ai une idée. Ah, mais je te promets que le dimanche, donc c'était le samedi soir, c'était samedi matin, dimanche soir, j'avais mon bébé qui était fait, l'idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bon, ça a mis un peu plus de temps en vrai à se monter. Mais,
ceci est une romantique ceci est une série Netflix entrepreneuriale.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai lancé ma première box en master, deuxième année de master. Après, ça a pris un peu plus de temps pour faire démarrer pour raisons personnelles, donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Mais c'est finalement vraiment sorti quand j'étais du coup salariée.
Et qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience? Comment ça s'est passé? Combien de temps t'es restée dessus?
Mais je suis encore en fait, parce que la marque existe toujours, donc le site est toujours accessible. Je le développe un peu moins, j'avoue, c'est moins ma priorité parce que j'ai la deuxième marque du coup qui est arrivée fin d'année dernière.
Ne spoil pas.
Voilà. mais du coup ça vit toujours et j'ai énormément appris de cette. J'ai fait énormément d'erreurs. Mais genre.
Est-ce que tu peux revenir dessus? Sur celles qui t'ont le plus marqué? Sur celles sur lesquelles t'as le plus de recul?
Oui, alors il y en a. Le fait de ne pas avoir été à temps plein déjà dessus, ça a fait que j'ai pas pu. J'ai jamais été à temps plein avec cette marque, en tout cas. J'ai pas pu l'emmener là où je voulais l'emmener, en fait. Donc ça s'est pas développé. J'ai été dans le créneau quand j'ai lancé le système de box. Les box étaient à leur apogée à ce moment-là.
T'étais là au bon moment sur le
marché. Voilà, j'étais au bon moment, mais le fait que j'ai pas été à temps plein m'a freinée dans certains points. Bah, parce que j'étais pas dispo pour. des rendez-vous pour visiter mes usines, pour tout ça. Il fallait que je le fasse soit le soir, soit le week-end. Et du coup, c'est un peu... C'est forcément... En plus, j'habitais au Havre à l'époque. Donc, en fait, voilà, le Havre, c'est un peu plus compliqué. J'avais rien sur place. Les rendez-vous, c'était notamment Paris ou les usines. C'est partout dans la France. Donc, voilà. Et puis...
Sur toi, t'as appris quoi ?
Sur moi, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a un exemple qui est vraiment hyper parlant. C'était il y a l'été dernier. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à vendre ma marque. Et le coup est dur, hein, de se rendre compte. Enfin, vraiment. Ouais.
Là encore, tu brises une omerta que à peu près vraiment. Là, on est toujours sur un chiffre TNS Sofres pour LVD, mais. Je pense qu'on est sur du 90% d'entrepreneurs en fait, qui galèrent à vendre leurs produits de cœur alors qu'ils viennent des tripes. Quoi.
Et bah, je me suis rendu compte que, ouais, que j'arrivais pas.
Comment t'as réalisé ça?
Et bah, enfin, lors d'un pop-up store, une semaine, j'avais loué un emplacement. Je pensais honnêtement, tu vois, a posteriori, hein, maintenant que je reviens dessus, je pensais que ça allait se vendre tout seul, entre guillemets. Et en fait, non. Ça se vend pas tout seul parce qu'un produit, il faut. Surtout quand on va dans un endroit de créateur, tout ça, il y a des histoires derrière chaque projet, derrière chaque produit. Et en fait, je me suis installée le jeudi matin, je crois. Et le jeudi, vendredi, samedi, c'est moi qui tenais le corner. Donc j'avais posé des jours de congé parce que j'étais encore salariée. Mais je ne vendais pas, en fait. Je vendais. Si j'avais vendu 5 paires dans la journée, c'était. C'était pump it up. Hein. Donc c'était vraiment la catastrophe. Mais je le vivais pas, je me disais oui, bon c'est pas fou, mais j'étais pas au bout de ma vie. Ce qui m'a vraiment achevé, c'est que le responsable du pop-up est venu me voir le samedi soir et m'a dit écoute Ali, je viens des bureaux rien que pour toi parce que je vois les chiffres. Je tremblais à ce moment-là, franchement j'avais plus de voix, je tremblais et tout. Et il me dit c'est quoi ton pitch? Alors pourquoi t'as créé la marque? Ben voilà, j'ai créé parce que je trouvais pas des chaussettes de saison de qualité et Made in France et voilà, un truc que je puisse mettre moi tous les jours. Et voilà quoi. Ok. Il chope la première cliente. Hein. Vraiment la première cliente qui passe dans l'allée. Il dit bonjour madame, vous connaissez mes chaussettes chéries? Ben non, je connais pas mes chaussettes chéries. Vous avez la créatrice en face de vous, elle s'appelle Alice, elle a créé pour ça, pour ça, pour ça. Ah, mais c'est trop bien, je vous prends 5 paires. Ok.
Alors, je vais le prendre mal, les gars.
Alors, ok. Deuxième cliente qui chope. Bonjour madame, vous connaissez mes chaussettes chéries? Ben non, je connais pas mes chaussettes chéries. Alors vous avez Ali, ça c'est la créatrice, elle a créé pour cette raison et ça. Ah, c'est trop bien, je vous prends 4 paires. Le mec avait vendu en 2 clientes plus de paires que moi j'avais pu faire en 3 jours. Voilà. Je peux te dire que quand moi je viens je sortais de grand magasin. Donc du coup j'étais juste manager commercial, donc je briefais, mon métier c'était de briefer des vendeuses pour qu'elles vendent au maximum, donc ça je savais, te vendre une marque qui est pas la tienne c'est facile de
briefer. Ah bah oui, voilà. C'est pas la même limonade.
Et quand il faut aller chercher les clientes et parler de toi et te dire bonjour madame, tu sais, vous savez pourquoi j'ai créé ça, parce que je pense ça, je veux ça, je voulais ça, je machin, et ben, en fait c'est pas du tout la même chose,
tu es en danger
et c'est compliqué,
c'est pas pareil, t'as trop d'affect.
Ouais. Et parler de soi, c'est dur. Genre, est-ce que les gens, ça va intéresser les gens? Est-ce que... Enfin, tu vois, c'est des questions, en fait, moi, je ne m'étais même pas posée, mais que je ne faisais pas. Et je peux te dire, à ce moment-là, je me sentais mal. Le mec s'en va. Donc, ok, je prends une grosse bave dans la gueule. Ouais. Clairement, c'est désolé, mais c'est, je tremblais, je suis rentrée le soir, j'avais envie d'arrêter, fermer le site, ciao, bye bye, je ne me reprends pas demain. C'était genre une catastrophe. Hein. Le mec s'en va. Et je me dis, bon, allez, vas-y. Première cliente, je me fais violence. Hein. Bonjour madame, vous connaissez mes chaussettes chéries? Ah bah oui, je connais mes chaussettes chéries parce que votre collègue tout à l'heure il m'a hyper bien vendu. Bah je vous prends 5 paires. Ok, alors.
Pourquoi? Quel est son secret?
C'est quoi le problème? C'est quoi le truc? Donc voilà, ça, j'ai fini la journée le samedi, mais vraiment sur les rotules. Ça c'était vraiment fin de journée, donc en fait j'avais loupé la plus grosse journée du week-end qui était le samedi, puisqu'il est venu me voir à la fin du samedi. Et effectivement, j'aurais bien voulu être briefée au début du pop-up, mais est-ce que si j'avais été briefée au début du pop-up, j'aurais entendu ce qu'il avait à me dire? Là, je l'ai entendu et je me suis pris une grosse baffe parce que j'étais en difficulté. Parce que j'étais en difficulté. J'étais en difficulté. Mais peut-être que s'il me l'avait dit au début, peut-être que je pouvais t'inquiète, c'est ma marque, évidemment, je sais vendre. Tu vois, genre, du coup, ça aurait peut-être pas fait le même effet. Et il serait peut-être pas venu me revoir. Et bon, du coup, c'est hyper. C'est dur à. Tu vois, même à. Vraiment le soir, je devais pas revenir le dimanche parce que c'était mon conjoint qui devait faire la vente le dimanche.
Le fameux cofondateur psychologique, voilà,
c'est ça, l'homme de l'ombre, à tout moment. C'est ça. Ouais. Qui devait le faire. En fait, je lui dis mais non, écoute, je me remotive. Mais ça, c'était après avoir dit, je ferme la boîte. Voilà. Une heure après, je reviens au bureau. Je fais, bon, en fait,
normal.
Je ferme pas la boîte, mais je vais peut-être aller revendre demain quand même. Et en fait, j'ai tout cartonné le dimanche parce que je m'étais mise dans une autre dynamique. J'ai ravalé mon ego parce qu'honnêtement, le samedi, c'était juste une catastrophe. Ça fait très mal. Mais le dimanche, voilà, j'ai cartonné. J'exagère. J'ai complètement changé de posture. Enfin, complètement. C'est un bien grand mot. J'ai complètement changé de posture sur la nouvelle marque. Mais du coup, je me suis beaucoup inspirée de cette expérience pour la nouvelle marque, en fait. Et j'ai pas honte de raconter ça parce que je pense que ça peut énormément servir de se dire qu'il faut rentrer dans un... C'est pas un rôle parce qu'il faut rester soi-même, mais il faut se faire violence. Il faut sortir le meilleur de soi-même, en fait. Et c'est sûr que rester à côté de mon corner en mode « Bonjour, madame. » Ça fait pas vendre.
T'es un peu gênée d'être là. T'as peur qu'on... En fait, il y a ce truc où quand on est entrepreneur, je trouve qu'on... bien sûr, je dis ça pour une amie. T'as ce côté où t'as l'impression que si tu vends, t'as l'air relou. Tu vends pas, t'es un mauvais entrepreneur. Donc, tu sais globalement pas où te poser, où te positionner. Et en fait... tu veux pas avoir l'air mort de faim parce qu'en même temps il y a des gens qui vendent trop et ça vend et c'est repoussant. Et ces gens-là, en plus, généralement, si on fait les parallèles par rapport à nos personnalités de départ, quand on a un tempérament plus dans la timidité, donc la timidité apporte beaucoup de choses positives, notamment ce côté d'observation dont tu parlais, ce côté d'analyse, souvent en service client, parce que le hasard de la vie fait que, en plus d'avoir les ménages, j'ai fait ça aussi, et souvent je trouve que. Dans ces métiers-là, pas mal d'anciens timides postulent pour dire oh bah j'ai plus peur et j'ai tellement pas peur que mon boulot ça va être de parler à des clients au quotidien. Donc bref, on a ce truc où ça nous titille, tu vois, la relation client, le commercial, on adore, on a envie d'y aller, tu vois. Toi, t'étais manager commercial.
Mais c'est quand même la honte, tu vois, à ce moment-là, quand le mec est venu me voir là dans le pop-up, et je me dis putain, c'est mon métier. En fait, j'arrive pas à le. Enfin, je suis censée savoir vendre, c'était mon métier de briefer des vendeuses, quoi. Donc
Peux vendre plein de choses et vendre une autre boîte et être super à l'aise, mais quand il s'agit de ta boîte, de ton produit, t'as l'impression de te vendre en fait. Et oui, c'est le truc où il faut trouver un bon équilibre parce qu'il faut incarner, il faut avoir son storytelling, au sens vraiment positif du mot storytelling.
Ouais, et ça se travaille en vrai, c'est. Tu vois, moi quand. Il s'appelle Joris, le responsable qui est venu le voir. Il m'a demandé c'est quoi ton pitch. En plus, je suis arrivée, j'avais pas préparé mon pop-up, j'avais pas de carte de visite, j'avais pas pensé à mettre un truc pour afficher mes prix.
Mais parce que. Lol. C'est genre de truc, tu n'apprends que dans le dur. Personne va arriver et te dire Allez, ceci est un cours de pop-up.
Mais du coup, j'ai écrit un article sur mon blog, qu'est-ce qu'il faut penser, à quoi il faut penser.
Que tu m'envoies, on va le mettre en lien.
Du coup, j'en ai refait un cet hiver pour la nouvelle marque, on va peut-être y revenir. Mais du coup, je me suis dit, en fait, moi, quand j'ai cherché. Quelles sont les étapes auxquelles penser pour faire un pop-up, et j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas un blog fourni, je dois avoir 3 articles qui se battent en duel, mais j'ai les différentes étapes à penser, auxquelles penser avant de créer un pop-up. Voilà.
Si justement, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur trouver le bon équilibre, d'un coup incarner son pitch, mais tout en étant en n'ayant pas l'impression de se prostituer en quelque sorte, quoi. C'est un peu ça, hein, le vrai truc qu'on pense dans la tête, si on dit vraiment tous les croisements nerveux qui marchent pas au moment de vendre. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Qu'est-ce que tu as fait le dimanche, là, quand tu reviens au pop-up? Comment tu expliquerais ça à un entrepreneur qui vient te demander un conseil autour d'un café, qui te dit, bon, Alice, tu as changé du tout au tout ton rapport à ton commercial dans ton projet. C'est quoi ton truc?
Mon truc, alors, c'était pas aussi flagrant lors de ce fameux dimanche. Il faut se conditionner. C'est dur, il faut avoir son pitch, il faut, quitte à le travailler, il faut s'entraîner chez soi, il faut le pitcher à sa famille pour qu'il soit structuré, qu'on sache ce qu'on dit, où on va, mais il faut que ça aussi, il faut effectivement que ça paraisse naturel, donc il faut le tester. Et je dis ça, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait pour le pop-up de décembre dernier, là, de 2019. Je l'avais plus ou moins fait dans ma tête, mais je m'étais pas autant entraînée, mais peut-être parce que j'étais plus prête, en fait.
C'est peut-être une étape par laquelle il faut passer, c'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire, c'est quand on sent vraiment au début de l'entrepreneuriat, genre vraiment message de santé publique de l'entrepreneur, si tu ne te sens pas opérationnel de vendre, alors que peut-être même avant t'avais peut-être même un métier vachement business, vachement dans la vente, c'est ok, on passe tous par là. Et je pense que le truc de se planquer derrière un pitch, tout fait, tout préparé, juste avec cuire au micro-ondes, tu vois, c'est juste... C'est un bouclier qui fait du bien.
C'est ça, c'est un bouclier. Après, ça va, de toute façon, ça va s'ajuster avec le temps, avec les clients, on sera de plus en plus à l'aise. Donc, le pitch aussi sera, paraîtra plus naturel, mais c'est pas grave, de toute façon, il faut commencer par quelque part. Et moi, j'aime pas l'impro, par exemple, et ben, je savais que mon pitch, il faut que je travaille, quoi. Et je l'avais écrit dans ma tête, mais genre, j'avais un plan, quand même. Et en fait, j'ai repris le plan que ce fameux juriste m'avait donné, en fait, lors du pop-up, qui était pourquoi j'ai créé la marque. Mais vraiment, ça dure... quelques secondes hein, comme pitch, hein. C'est pas le pitch devant des investisseurs, hein. On parle à des clients, hein, donc c'est rapide. Mais
t'as tout dit, tu vois, il y a un truc vachement intéressant qu'on oublie ou qu'on regarde pas, et c'est là où s'arrêtent justement les bons conseils et même ce qu'on est en train de dire, et que commence le travail sur soi qu'on doit tous faire, c'est que tu dis « j'aime pas improviser, pourtant tu t'étais mise dans une posture d'improvisation ouais. ». Et en fait, il faut quand même se demander comment on aime vendre. Parce qu'au contraire, quelqu'un qui aime vachement improviser, bah peut-être que notre conseil sur le pitch qu'on connaît par cœur, il est tout pété.
Ah bah oui.
Et en fait, il faut d'une certaine façon, tu pourras lire 50 000 trucs sur Google, sur comment vendre un chien dans un pop-up store. En fait, il faut juste se poser devant sa... Tu vois, quand on était petit et qu'on jouait au marchand ou à la marchande dans le jardin de papy-mamie, quoi... comment tu les vendais tes ouais. sushis en fait de d'érable hein. Tu vois, c'est ça le truc, c'est comment t'as envie de le vendre. Franchement, faut jouer au marchand et à la marchande,
c'est ça.
Faut s'entraîner, faut le préparer avant,
et ça se bonifie exactement. Avec le temps, et faut pas faut l'avoir en tête. Ok, de toute façon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on ait un produit ou un service, on n'a jamais le produit parfait ou le service parfait, et ben voilà, on n'a pas le pitch parfait des premiers clients.
Exactement.
Et il faut l'accepter, et il va peut-être paraître trop commercial, et ben le prochain, on va être un peu plus naturel, et le suivant encore plus, et puis voilà quoi.
Le pitch, en plus, la réflexion que je me faisais l'autre jour, c'est qu'il évolue énormément avec ton projet. Mmh. Enfin, je sais pas si t'as le même ressenti, mais en fait, ton pitch, c'est un espèce d'échantillon de ton cheminement, de ton projet, de l'ambition, de l'ampleur qu'il a, quand bien même il dure deux phrases, hein, ou trois phrases. C'est que tu pitches pas pareil au départ et à la fin, parce que d'une part, tu vois en fait que toi, ce que tu pensais être des arguments clés, c'est pas forcément ce qui marque le plus tes clients, mais aussi parce que toi, tu changes d'ampleur forcément. Petit à petit, t'as un petit peu plus envie de t'affirmer de façon de plus en plus grande ou large, et forcément ton pitch, il est absolument pas ancré dans le marbre, et au contraire, faut surtout pas l'ancrer dans le marbre. Faut vraiment faut être en éveil de ce qu'on a envie d'être comme entrepreneur, de l'entreprise qui se développe, de plein de choses. C'est encore une fois, faut pas se bloquer derrière le pitch, faut pas en faire un truc un peu monstrueux, tu vois. Ça a le droit d'être imparfait, d'être un peu crado, d'être à l'essai toute une vie d'entrepreneur entière, on s'en fout un peu, quoi.
Ouais, non, mais c'est carrément ça. Et bah, voilà, du coup, cette expérience m'a fait énormément grandir. Après, il se trouve que la fin de semaine s'est moins bien passée, parce que c'était ma petite sœur qui gérait le pop-up,
ouais.
Et Flo.
Mais t'as recruté toute ta famille, en
voilà, oui, bah
donc
oui,
t'as de bonnes capacités managériales, voilà. Parce qu'on suppose que tu les as.
Mais bon, ma sœur ayant fait 8 euros de chiffre d'affaires sur une journée, je n'ai pas été très rentable sur cette journée, mais elle était là et c'était adorable. Et voilà.
Au moins,
je n'étais pas à temps plein, donc voilà. Bah, j'assume. À un moment, ma sœur, elle n'est pas...
C'est toujours 8 euros
de marque, elle a la pression de se dire, c'est la marque de ma sœur. Voilà,
ouais, elle avait une autre forme de pression.
Ouais, c'est pas facile non plus, donc je ne blâme personne. Mais du coup, je retiens que j'ai pas été à temps plein, donc j'ai pas amené la marque où je voulais.
Comment ça avance ensuite, après ce pop-up qui est genre un carrefour de ta vie entrepreneuriale? Qu'est-ce qui se passe avec les chaussettes chéries?
Après ce pop-up, j'annule la prochaine livraison de box. C'est-à-dire que je décide d'arrêter les box.
Ah, okay.
Je rappelle l'usine et j'annule tout. Je lancerai pas de prochaine box.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi tu prends cette décision alors que par exemple t'es peut-être déjà, tu commences à être plus à l'aise sur la vente et tout?
Ouais, je sentais que moi je m'étouffais, je m'essoufflais, pas m'étouffais.
Le là-dessus c'est cool.
Voilà. Mais j'étouffais peut-être aussi. Hein. J'étais salariée, il faisait chaud à ce moment-là, c'était la canicule, j'en pouvais plus.
C'est un mauvais contexte voilà. De saison.
Non, je m'essoufflais. J'avais cette expérience qui me restait un peu au travers de la gorge quand même. J'arrivais plus à animer les réseaux, tu vois, je postais même plus sur Instagram. Genre quand lors du pop-up, boostez vos réseaux, machin, mais je faisais même plus de posts, en fait, j'avais plus envie.
Et tu penses qu'elle venait d'où, cette perte d'envie? Ça peut être multifactoriel, tu vois.
Ouais.
C'est pas que le salarié.
Alors en fait, c'était aussi le fait que le coche des box et l'apparemment passait. Et du coup, en fait, dans ma tête, j'ai d'abord dit j'arrête les box. Donc j'arrête, je continue les chaussettes, mais j'arrête l'abonnement.
Parce que du fait que tu étais salariée, tu n'avais peut-être pas eu le temps de prendre le coche de la croissance au bon moment et tu te sentais un peu retrait de ton marché. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et du coup, donc j'ai arrêté les box. Mais du coup, mes chaussettes chéries sans les box et sans l'abonnement, bah, ça perd de son. Moi, je ne veux pas faire de la chaussette pour faire de la chaussette. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas graphiste, donc c'est-à-dire que je fais appel à des graphistes, à des designers textiles pour qu'ils me dessinent la chaussette. Et en fait, moi, j'étais une chef de projet, en fait, entre le designer textile et l'usine. Et moi, je vendais un produit sous ma marque, mais du coup, tu vois, je faisais rien de mes mains, en fait.
T'étais une chef d'orchestre.
J'étais, c'est ça, une chef d'orchestre. Et du coup, ouais, mes chaussettes chéries sans les box, voilà, ça a perdu de son sens. C'était dur d'arrêter parce que j'ai remboursé quand même beaucoup beaucoup de clients qui n'avaient pas, du coup, qui sont pas allés au bout de leur abonnement.
De rembourser, il a fallu que tu l'expliques à tes clients.
Je l'ai expliqué, ouais, j'ai fait un mail personnel à chacun.
C'est une bonne astuce.
Qu'est-ce que j'ai dit à chaque fois?
Pareil, là, si t'as un entrepreneur qui est en train de switcher d'un projet à un autre, d'opérer une transition d'un projet à un autre, comment t'as géré ça? Quel bon conseil au niveau, toi, la pro du service client?
J'ai pas arrêté les abonnements et je me suis dit,
J'attends qu'ils se plaignent.
Voilà, j'attends qu'ils se plaignent ou je rembourse, mais je dis rien. Tu vois, donc ils verront effectivement qu'ils sont remboursés, mais ils ont pas d'explication. Non, j'ai vraiment envoyé un mail, j'ai vraiment envoyé un mail à chacun des clients, donc vraiment j'ai passé du temps. En leur expliquant que mes chaussettes chéries, les abonnements s'arrêtent, mais c'est pas la fin, le site est toujours en ligne, mais c'était une belle aventure, je la continue mais un peu différemment et tout. Et que dans la foulée, je rembourse, donc du coup, dans quelques jours. Et une fois que j'avais envoyé le mail, j'appuyais sur rembourser. Et du coup, quelques jours après, j'ai vraiment eu aucun retour. Aucune personne qui est venue me dire « Ah, j'ai plus mon virement, pourquoi, machin, ah, je trouvais trop... » Je me fais appel à un avocat, enfin j'en sais rien, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des clients qui disent moi je me suis abonné pour un an, pourquoi j'ai pas reçu mes deux dernières box, enfin.
Et en revanche, est-ce que t'as reçu des réponses à ton mail où t'expliquais la situation? T'étais honnête en fait, tu disais
j'étais honnête, elle s'arrêtait pas parce que la marque existe toujours, mais genre les box, vraiment, l'aventure des box s'arrêtait.
Le format des box, ouais.
Ouais. Oui, j'étais honnête, j'ai eu peu de retours, et les peu que j'avais étaient bons, ils me souhaitaient beaucoup de
l'empathie,
bien sûr. Et j'ai eu un seul retour, c'était une bénéficiaire de box qui n'avait pas eu l'info et du coup qui m'a contactée sur Insta et qui m'a juste dit bonjour, est-ce que c'est normal que j'ai pas reçu ma box? Et du coup je lui ai répondu minutes, c'était la bénéficiaire. Mais moi j'avais remboursé l'acheteuse.
C'est quelqu'un qui lui avait offert en cadeau
ta box. Okay. Donc je livrais directement à la bénéficiaire. Mmh. Et du coup moi j'ai envoyé un mail à l'acheteuse, j'ai remboursé l'acheteuse
et la
BNF n'était pas au courant, je lui ai répondu hyper rapidement, mon compte Insta existe toujours, même si j'alimente plus, donc du coup j'ai eu la notif et j'ai répondu dans les 5 minutes à la cliente en disant j'ai bien vérifié quand même que j'avais remboursé la cliente, parce que jamais on n'est pas à l'abri d'un bug, et j'ai bien dit l'acheteuse qui vous a offert a bien été remboursée à telle date de temps, peut-être retournez-vous vers elle.
Demande-lui un cadeau, une avance sur le prochain Noël.
Encore une fois, avec cette cliente, du coup, cette bénéficiaire, j'ai été honnête. J'ai dit, effectivement, l'aventure s'est arrêtée il y a quelques mois. Votre acheteuse a bien été remboursée, vous pouvez lui demander. J'ai donné le nom de l'acheteuse, tout était clair. Et j'étais honnête.
Et alors, une fois que tu as passé cette étape de fermer le format box, de prévenir tous les acheteurs, les bénéficiaires et tout, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu te sens? Comment tu vois la suite à ce moment-là?
Je me sens un peu. J'ai plus d'élan, je suis salariée, mais moi ce que j'ai toujours, même quand j'étais étudiante, depuis que je suis étudiante, ça fait 3 ans, 4 ans, 3 ans que j'avais mes chaussettes chéries.
T'étais habituée à avoir deux vies en
fait. Ouais, c'est ça, j'avais deux vies, et du coup quand t'en as plus qu'une et que c'est pas celle qui te fait le plus rêver, c'est relou, parce qu'en vrai, même si mes chaussettes chéries c'était pas l'Eldorado, elles me faisaient rêver, et je m'éclatais quand même si à la fin c'était plus compliqué. J'aimais ça, donc du coup quand ça s'est arrêté, tu passes de deux vies à une, et je me sentais un peu vide quand même, mais ça a pas duré très longtemps du coup, parce que du coup j'ai eu une autre idée.
Combien de temps après?
Simultanément en fait. Vraiment c'était pas du genre j'arrête et je recommence, c'était je suis en train d'arrêter mais j'ai une autre idée, et
Et t'as fait le truc de beaucoup d'entrepreneurs, le fameux du passage du premier au deuxième projet, ouais. Où en fait, tu dis pas que t'arrêtes le premier projet. Moi, c'est pareil, la page Facebook de mon premier projet, elle est pas fermée, tu vois. J'ai jamais prévenu les gens que c'était fermé. Mais c'est juste, tu dis, oui, bon, je garde quand même l'Instagram, c'est pas fini. C'est ça. Et puis d'un coup, t'as le coup de cœur. T'as la deuxième idée qui est beaucoup plus forte que la première.
Mais c'est même plus une idée. Enfin, comme tu l'as dit, c'est un coup de cœur.
Ouais, c'est la love story entrepreneuriale qu'on attendait. Ouais. Ouais. Et c'est une fois qu'elle te tombe dessus que tu captes que le premier projet, c'était pas tout à fait pareil.
Ouais.
Tu étais là, pas là pour rien, mais c'est pas pareil.
C'est ça, c'est différent, mais... Et voilà, je sais pas comment commencer.
Elle a une tête amoureuse, hein. Audio description. Alice a une tête.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, je m'éclate et genre, ça m'est tombé dessus, c'était...
Alors, c'est quoi cette love story?
En fait, du
ça
coup,
a commencé quand?
Bah, c'était simultanément de cette fin de mes chaussettes Thierry. En fait, pour l'histoire, j'avais créé une paire dépareillée de chaussettes, mes chaussettes Thierry. Donc, c'était des petites roses, mais qui étaient différentes entre la paire gauche, enfin, la chaussette gauche et la chaussette droite. Rien de bien fou, les chaussettes dépareillées, ça existe. Enfin, voilà. Moi, c'était à l'arrière du talon, c'était ma cousine qui avait fait le graphisme. Enfin, voilà, c'était... Je pensais pas, ça s'arrêtait là. C'était une paire dans une box, et puis basta. Et en fait, la paire dépareillée, genre coup de cœur. Coup de cœur sur la paire dépareillée, et en fait il fallait que je sais même pas par où commencer, c'est compliqué,
c'est dur d'expliquer un coup de foudre.
C'est clair, en fait je saurais même plus comment la nouvelle marque c'est Story en mode story, donc c'est une marque de chaussettes dépareillées impertinentes qui a des punchlines, donc c'est juste des chaussettes blanches de tout ce qui est le plus basique, avec des punchlines qui sont écrites à l'arrière du talon, donc qui se voient en noir et qui se voient quand on met des baskets basses et potentiellement un pantalon, enfin, c'est au moins 7/8.
Donc, c'est quoi les punchlines? Il y a Namaste Bitches.
Il y a Namaste dans les plus. À la base, moi, le pitch qu'il y a derrière, c'est que je suis une ancienne très grande timide et toujours fan de chaussettes. Et du coup, comment faire passer le message de manière, différente? Et du coup, effectivement, j'ai créé des paires dépareillées, mais qui sont impertinentes. Donc, les premières paires que j'ai créées, c'était Namaste Bitch, Fake It I Quit. Et après, il y a eu d'autres pères, Call Me Baby, Call Me Daddy, un peu plus...
Il y a Morito, je sais pas.
Bring Me a Morito, Drunk Singer, chanteuse bourrée, voilà, c'était... Et en fait, c'est vraiment... l'idée, c'est de faire passer le message à celui qui veut bien le voir. Donc quand on met ses chaussettes Namaste Biatch, donc je pense que j'avais un message fort à faire passer quand je l'ai créé, quand je mets mes chaussettes Namaste Biatch...
Namaste, moi, ça veut dire... Enfin, tu peux dire en français ce que ça veut dire. Enfin...
Namaste, c'est le salut en yoga.
Ouais.
Donc du coup, c'est Namaste et le contraste avec Biatch, c'est genre la zénitude et puis pas la zénitude du tout.
Ouais, voilà. la fille de joie.
Ouais, c'est ça.
Namaste, la fille de joie.
Voilà, c'est ça, un peu... Et c'est du genre, je suis zen, mais me saoule pas trop quand même. Quoi. Sinon, je vais te dire ce que je pense. Et du coup, quand je mets mes chaussettes Namaste Biatch, bah, tu vois, moi je sais que je les porte, donc je suis un peu assurée. Et le message passe à celui qui voudra bien voir mes chaussettes. Donc, que je sois dans les escaliers, que je marche devant quelqu'un qui regarde mes chaussettes. Voilà. Ça se voit pas, je le porte pas sur mon t-shirt. C'est à l'arrière de mes chaussettes, au-dessus des baskets, quand j'ai un pantalon 7/8. Là, c'est un concept. Voilà,
si je te dis que mes chaussettes chéries, c'était le projet d'Alice, mais Sorry or Not Sorry, c'est Alice.
Ouais, c'est ça. C'est 100% vrai. C'est moi, en fait, ce projet. C'est peut-être les messages que j'ai jamais pu faire passer quand j'étais timide et que je fais passer maintenant. Mais ça reste moi, parce que c'est pas visible sur un t-shirt. Ça reste ma façon d'être. Je suis pas extravagante. Je suis pas...
C'est une pointe d'insolence.
Ouais, c'est ça.
Dans un modèle en noir et blanc, donc un peu chic à la base, mais avec une pointe d'insolence.
Et qui se voit pas forcément. Enfin,
et d'ailleurs, t'as bien en noir et blanc.
Et oui, bah, après, la marque me ressemble quand même. Ouais. Je suis tout le temps bien en noir et blanc, et du coup, mes chaussettes sont noir et blanches aussi. Alors que mes chaussettes chéries, mes chaussettes, je les mettais, mais c'était hyper girly. Donc, il n'y avait pas pour les hommes déjà, alors que sur la nouvelle marque, il y a hommes et femmes. Et bah, sur la première, c'était des petites fleurs.
C'est non-genré en fait.
Si, bah, c'est des tailles.
Ah oui, d'accord.
Juste dans les tailles.
Oui, mais sinon,
oui, c'est
les mêmes.
Sinon, c'est les mêmes. D'ailleurs, tu dis que c'était non-genré. Mmh. En fait, si, je les ai un peu trop genrés sur la première collection et on me l'a reproché. Donc, j'ai entendu le message.
J'ai entendu le message 2020.
La prochaine collection sera beaucoup moins genrée. Ne vous en faites pas.
Calmez-vous, les internets.
C'est ça.
Et est-ce que, là aussi, tu vois, c'est drôle parce que je repense à pas mal d'épisodes avec des entrepreneurs de la LVD Family. Et je repense aussi, pareil, à une amie. Il y a ce truc où le
une
premier...
proche.
Ouais, voilà, une amie très proche de moi. Toujours avec moi. Le premier projet, tu t'essayes, tu as une idée, tu t'apprends à entreprendre. Le premier projet, il y a un petit truc où quand même, tu as beau te dire qu'il faut porter quelque chose quand tu es entrepreneur, que c'est pas juste une histoire de jouer à l'entrepreneuriat. Tu es un peu là pour entreprendre versus le deuxième projet. Tu entreprends plus pour l'entrepreneuriat, mais pour ton projet.
Ah ouais, en fait, j'ai même pas l'impression d'entreprendre. C'est juste dingue. La différence entre... Et pourtant, il se passe quand même beaucoup, beaucoup moins... Bon, après, j'ai lancé il n'y a pas beaucoup de temps, mais sur mes chaussettes chéries, j'ai eu énormément d'articles dans la presse, parce que bon, j'ai lancé au Havre, et du coup, au Havre, quand il y a quelqu'un qui se lance, bah, tout de suite, ça fait un peu... Ça fait un peu de neige, voilà, tout à fait, donc c'est quand même sympa. Là, sur ce Rien Notre Story, j'ai rien. Bah, j'ai même pas cherché, je cherche pas, parce que je m'éclate tellement, en fait, je sais pas, je m'éclate que du coup je cherche pas à m'éclater encore plus en fait.
T'as pas besoin de ça.
J'ai pas besoin de ça pour aimer, pour faire sentir que j'entreprends. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre.
Est-ce que je peux faire de la psychologie de comptoir et te dire que le premier projet tu cherchais à le valider? Il y a vachement de trucs où tu vas dans la presse pour rassurer tata Jasmine qui croit jamais en ton projet, pour dire bah quand même j'ai de la presse, nanana, ouais. Versus ce deuxième projet où t'as rien à prouver parce que c'est ton. Ouais. Projet, c'est une évidence.
Il me ressemble à 100% en fait, et du coup. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est ça. Du coup, voilà, pour l'instant, je.
Est-ce que t'avais conscientisé un peu ce fossé? Est-ce que tu t'étais dit à la fin de Mes Chaussettes Chéries, c'était rigolo, mais ça me ressemble pas trop le design qui est plus girly?
Je le mettais, hein, c'était plus ça que je mettais tous les jours, mais je m'éclatais moins. C'est vrai que.
T'as pas eu l'idée de se réunir en notre souris en te disant il faut un projet qui me ressemble plus, ça c'est non. Plus annoncé ouais. À toi comme une évidence ouais. Et c'est parce que ça te ressemble plus que tu t'en empares plus d'une ouais. Certaine façon.
Ouais, c'est ça.
Et alors comment ça s'est passé? Donc une fois que t'as l'idée, qu'est-ce qui te vient en tête ensuite? Comment tu développes?
Et bah quand j'ai l'idée, je suis encore salariée déjà.
Toujours, toujours de vie.
Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu l'occasion de partir finalement. De la boîte dans laquelle j'étais revenue. C'était pas du tout le plan, mais voilà, il fallait que je quitte cette boîte finalement, c'était... bref. Donc en fait l'occasion s'est présentée à moi, et genre j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'obligation. Heureusement que Flo lui est salarié et a un salaire qui va
pouvoir... donc formateur psychologique,
voilà, ouais. Tout à fait, j'ai juste un chat, donc à la limite si je change la marque de croquettes je pense qu'il va
si
pas
je prends pas que des croquettes bio, il ne m'en
voilà
pas. Ça reste
donc je me dis allez, c'est maintenant ou jamais, je me mets à temps plein.
Et t'as le chômage, t'as eu réussi à obtenir ouais. Une rupture conventionnelle.
Ouais. On va dire ça.
D'accord, on va dire t'as le chômage. Bon.
Donc j'ai effectivement l'aide à la création d'entreprise, c'est l'ARS.
Voilà, comme tout entrepreneur, t'as trouvé un moyen d'avoir, c'est l'ARS.
Là.
Il y a l'ACRE
ouais.
L'ARS.
Ouais, bon, bref, ouais, bref. Quoi, tu vois. Ouais. Je suis pas à la rue.
Mais, ouais. Allez au Pôle emploi si vous voulez des vraies infos. Ouais,
c'est un peu le fouillis d'ailleurs ce truc, hein. C'est ouais. Un peu compliqué à mettre ouais, en place.
J'ai entendu un post sur un groupe Facebook d'entrepreneuriat de quelqu'un qui a pensé l'avoir, qu'il a pas eu. Non, en vrai, faut vraiment, là on rigole, mais il faut vraiment aller à Pôle emploi et demander à trois personnes à la fois.
Enfin... J'ai fait un peu des pieds et des mains pour l'avoir, ça peut être ouais, parce que j'ai recréé des statuts alors que j'avais déjà une société de créer. Il a fait que je recrée des statuts, donc je repaye une création. Du coup, j'ai deux sociétés actives en ce moment. J'ai pas la thune pour faire. La première, enfin bref, c'est une catastrophe, donc du coup j'ai deux
idées. J'ai pas la thune pour faire la première.
Voilà. Là, oui, parce qu'en fait, tout l'argent que j'ai, en fait, je veux le mettre dans la. Je veux pas le mettre pour fermer, tu vois, que ça va coûter à peu près 600 euros. Ouais, ça coûte parce qu'il faut faire le bilan et tout, donc à peu près 600 euros pour fermer cette boîte. Et en fait, quand j'ai 600 euros, je préfère les mettre dans une collection de chaussettes. Donc du coup, pour l'instant, j'ai deux boîtes, mais il y en a qu'une seule qui fonctionne.
Je peux faire une holding.
Si, si, tout à fait. Bon bref, du coup effectivement je quitte cette boîte en me disant bah voilà, c'est maintenant ou jamais, c'est parce que si je le fais pas tout de suite, peut-être que dans un an, dans deux ans, j'aurai peut-être un enfant, enfin on verra quoi, peut-être que
ouais, mais est-ce que tu crois que ça va te limiter, toi qui aimes bien toujours avoir 500 vies à la fois?
Mais peut-être que c'est Flo qui aurait changé de vie, parce que Flo aussi il était un peu en mode il est musicien à côté d'être salarié, oui, donc du coup il suffirait que sa carrière décolle avant la mienne, et la du coup c'est lui qui se met freelance, et moi du coup je suis obligée d'être enfin
donc il fallait que tu réagisses vite,
il fallait que ça soit moi la première.
Il n'y a pas le time, comme ça voilà. Après il peut se mettre à la musique et tu payes voilà. Le foyer,
c'est ça, tout à fait. Du coup je quitte sa boîte, cette boîte, et je lance mes collections en même temps, et là ça a été temps mort jusqu'en décembre, donc j'ai quitté en septembre. Et jusqu'en décembre, ça a été mort, parce qu'en fait, avec les temps de production, tout ça, et bah je me faisais chier. La réalité, c'était que, oui, ok, j'avais un projet, j'avais un truc, mais j'ai même pas le produit, j'ai même pas les prototypes, c'est un peu...
Bon. C'est l'attente des débuts qui est un peu dure, ouais, quand t'as l'impatience qui crie, ouais, en toi, quoi.
C'est ça. Mais bon, bah, on fait avec, hein. Du coup, bah, j'avais jamais pris de vacances, donc je me suis un peu reposée, on va pas se mentir, hein. Et ça fait du bien, parce que du coup, quand tout était... J'ai pu planifier, et c'est là aussi où c'est cool, c'est que comme j'étais à temps plein dessus, et bah, j'ai pu prendre le temps de bien faire les choses. Alors qu'avec mes chaussettes chéries, j'étais toujours un peu dans le speed. Genre, je pouvais oublier la Saint-Valentin et te dire, oh putain, faut que je fasse un post la veille.
Attends, faudrait peut-être que je fasse une OP.
Ouais, c'est ça, tu vois, je n'y pensais même pas, en fait, ouais, c'était compliqué. Là, j'ai pu me poser devant un calendrier et me dire, les temps forts, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, faut pas que j'oublie, je me mets des rappels, voilà. Et donc ça, c'est bénéfique. Donc, j'ai eu un petit temps comme ça, calme, j'ai pu quand même bien me poser et faire première stratégie.
J'ai une question pour toi. Quand tu te retrouves à être à temps plein, est-ce que tu réalises que tu es entrepreneur à temps plein pour la première fois de ta vie? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu captes? Parce que là, t'es entrepreneur, quoi.
Non, au début, c'est compliqué parce que t'es entrepreneur, mais t'as pas ton produit, t'as pas ton site.
T'es au début,
t'es au chômage. Donc tu dis quoi aux gens? Ah ben, je suis entrepreneur. Je suis la fondatrice de ma boîte, mais j'ai pas de site encore, en fait. Ah ouais, mais monte tes chaussettes. Bah, j'ai pas mes chaussettes encore. Bon, t'es au chômage, quoi. Oui,
je touche le chômage, mais ne le prends pas comme ça.
Voilà, c'est un peu ça. Donc t'es un peu dans le flou.
Mais oui,
c'est un peu le
c'est dur au début de l'entrepreneuriat, ouais, de se sentir entrepreneur, je trouve.
Ouais.
Et encore, toi, t'avais un autre projet, donc au plus tard, tu pouvais dire je fais des chaussettes chérie aussi.
Ouais,
tu vois.
C'est ça.
Mais si t'avais démarré comme ça, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs pour qui ce passage est vraiment dur ou t'oses pas dire que t'es entrepreneur. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais croisé un mec comme ça dans un événement entrepreneuriat, et vraiment, il disait non, moi je suis pas entrepreneur, je suis porteur de projet. Et j'étais là, comment va ton syndrome de l'imposteur? Il va bien, il est pas trop collant.
Je parlais ce midi avec une amie qui me disait exactement la même chose, que là, elle est un peu, elle m'a posé la question, elle me dit, mais toi, tu dis quoi? Tu dis que t'es au chômage ou t'es.
Bah non, surtout pas, malheureuse.
Bah,
déjà que les gens te le disent pour toi. Donc
voilà, alors là, je suis un peu plus avancée, donc effectivement, je dis plus que je suis au chômage, mais elle est juste encore à la phase de lancement, la phase juste avant le lancement, et du coup, elle était dans le flou. Donc elle m'en a parlé ce midi. C'est marrant, tu vois.
Ah ouais,
c'est,
mais
le sujet est là.
Enfin, franchement, et puis en plus, tu vois, quand bien même tu déciderais pas d'être entrepreneur, mais de prendre une année pour toi, pour, je sais pas, prendre une langue étrangère, voyager, prendre, tu sais, ces années de, on appelle ça le vide fertile, bah, le dis pas comme ça, enfin, tu vois, genre, te casse pas, t'auto-flagelles pas, tu fais pas rien toute la journée.
Après, c'est pas une honte d'être au chômage. Hein.
Mais c'est ça.
C'est de toute façon pas une honte. On peut dire qu'on est au chômage, hein, si vous êtes allé avec nous.
Oui, mais faut pas, je trouve, s'auto-flageller en mode je suis au chômage et je subis, tu vois. Tu peux dire t'es au chômage et je monte un truc, ou je suis au chômage et en fait, j'ai arrêté tout boulot parce qu'il faut que je me retrouve avec moi-même. Enfin, je trouve qu'il faut pas faire comme si on sert à rien, tu vois.
Ouais. Non,
il faut pas se clasher, je trouve.
Ouais, faut croire en soi, quoi.
Et puis en fait aussi, c'est pas parce que ça se voit pas, c'est pas parce que t'as pas de site internet et de produits que t'es pas entrepreneur, parce que avant que le site internet et les produits sortent, maintenant nous on le sait, entre entrepreneurs, il y a énormément de travail. Donc en fait, t'as le droit de dire même avant.
Il y a du travail, il y a de l'argent qui a été bien
géré. Exactement, ouais. Par contre, l'argent, il sort avant le site internet.
Oui, c'est bien ça. Donc on est entrepreneur sur le compte bancaire quand même.
c'est clair, le compte bancaire, le statut. Ouais. Le statut bancaire, il est entrepreneur.
Oui, c'est ça. Bien plus que nous, d'ailleurs.
C'est clair. Et du coup, donc, t'es dans cette période, donc tu prends un petit peu de vacances, t'attends ta première livraison. Et quand est-ce que tout se met en place? Quand est-ce que tout s'aligne?
Tout commence à voir le jour quand je reçois mes prototypes et que je peux enfin faire une séance photo et organiser le shooting un peu, des produits qui seront sur mon site, des photos qui vont alimenter mon Instagram. Là, je savais même pas comment lancer mon Insta. Ok, je repars à zéro, faut que je fasse une page Instagram, comment je fais? Avec quoi? Comment? Machin. Bon, après, j'étais en train de me dire quel plan je fais, quelle stratégie. Et en fait, à un moment, j'ai dit, bon, allez, vas-y. J'ai une idée là, aujourd'hui, tout de suite, il faut que je le fasse, et c'est comme ça que j'ai commencé. Sinon, je ne savais pas comment commencer.
Mais donc, en fait, je trouve
d'ailleurs, que... D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment commencer. Cette fameuse copine avec qui j'ai mangé ce midi m'a demandé. Et je lui ai dit, mais vas-y quand tu le sens. Vas-y quand tu le sens, planifie pas trop.
Mais d'autant plus que je me rappelle de ton lancement de ton deuxième Instagram, ce que je vois passer sur mes Josette Chérie, genre nouveau projet. Je dis, ah bon. Et j'avais trouvé ça bien, en fait, ce que t'avais fait. T'avais en gros fait un petit teaser, un petit suspense en disant, il va se passer un truc ici, ça va s'appeler Sorry or Not Sorry. Le nom est bon en plus, donc du coup, ça attire les gens, je pense.
C'est ça. Et effectivement, j'avais pas annoncé tout de suite, j'avais fait une première photo du shooting où on me voit en train de réfléchir. Donc, c'est pas une photo du produit, c'est pas une photo, on voit pas de chaussettes.
Ouais.
C'était vraiment un petit teasing sur 2-3 posts.
En noir et blanc et tout.
Ouais, c'est ça, ouais, un peu d'ambiance du shooting. Mmh. Donc, on se demandait ce que ça allait être. Ça va pas. Voilà, aujourd'hui j'ai 370 abonnés, hein, donc c'est pas non plus. C'est pas la folie, hein, c'est pas ce qui a fait que ça a décollé, mais en fait. Moi j'étais contente de le faire, j'étais no pression de le faire et c'était principal.
Et alors donc on s'est revus en décembre, début décembre, donc c'était un jour avant la grève, donc c'était le 5.
Ouais.
ça fait des repères chronologiques. On se revoit autour d'un café et à ce moment-là, tu me parles de ton lancement, etc. T'allais revenir à ton fameux pop-up store, donc magasin éphémère. Le même que l'année précédente,
ouais.
Juste avant. Et à ce moment-là, tu me dis quoi? Quelle est ta stratégie pour développer Sourire en mode soirée?
Oh, je sais plus ce que je t'ai dit.
Tu m'as dit, je veux faire du numérique.
Ah oui, ouais, effectivement.
Oui.
Ma stratégie, c'était, je voulais être la chantilly biscuit de la chaussette.
Chantilly biscuit, c'est une fille qui fait des biscuits personnalisés un peu insolents, donc il y a des beaux parallèles. Et Instagram, c'est son premier canal de vente.
Ouais, c'est ça.
Elle vend normalement en digital, en numérique. La mode veut qu'on ait plus le droit de dire digital parce que normalement ça veut dire les doigts en fait, tu sais. Mais c'est pour ça du coup maintenant je suis hantée par ça. J'arrive plus à le dire.
Via les réseaux,
via les internets.
Voilà.
Elle est ce qu'on appelle une DNVB, Digital Native Vertical Brand, et j'avais fait une chronique spéciale il y a quelques newsletters en arrière pour expliquer ce que ça veut dire. Je pense que c'était genre la newsletter La Vraie Dose 71, j'ai fait tout un article sur ce que c'est une DNVB parce que c'est bien mignon les mots marketing qu'on comprend pas, mais c'est bien de les comprendre. Et du coup on est beaucoup à être des DNVB, enfin il y a beaucoup d'entrepreneurs à être des DNVB qui le savent pas, ça fait très bien sur un PowerPoint, donc faut le dire.
Voilà.
Ça fait très bien en société pour faire taire tonton Jean-Mi parce qu'il comprend pas, du coup il s'arrête. Donc Chanty Biscuit, une nana qui fait des biscuits personnalisés avec des phrases insolentes et avec une grosse stratégie Instagram.
C'est ça. Et moi je me suis dit, mais je veux. Moi, j'ai fait une école de commerce, et dans une école de commerce, on te dit que, de toute façon, c'est le digital qui marche.
Les internets.
Donc moi, ma marque, elle serait digitale.
Ouais.
Je ferais de la chaussette insolente, impertinente, made in France, mais en ligne. Ah bah oui, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre début décembre et aujourd'hui? En fait, il se trouve qu'effectivement, tu lui as dit, Sarah, j'ai fait un pop-up sur les deux dernières semaines avant Noël, donc physiquement présente, moi, à vendre mes produits, et il s'est trouvé que j'ai cartonné. Et que j'ai cartonné, mais au-delà de ça, donc ça c'est cool déjà, parce que ça relève un peu mon échec de mes chaussettes chérie, et ça valide en tout cas, parce que je me suis dit, tiens, si en décembre ça ne marche pas, janvier je retrouve un taf. C'était un peu qui tout double, hein. C'était soit je continue, soit j'arrête, hein. Il n'y avait pas d'entre-deux.
Mais c'est intéressant donc, quand même, c'est, tu vois, t'incarnes bien ce truc de l'entrepreneur qui se mange une porte d'armoire, un échec, mais qu'en fait un truc canon derrière, tu vois.
Je sais pas si c'est canon, mais en tout cas, ça a bien marché.
C'est une belle histoire.
Et j'ai kiffé mes deux semaines, en fait. J'ai juste kiffé ma life, c'était dur physiquement, mais je m'éclatais. J'ai adoré aller à la rencontre des clients, penser les nouveaux modèles avec eux. Alors, ils m'achetaient mes modèles, mais ils pensaient déjà à d'autres modèles. Donc, du coup, il y a des idées que moi, j'ai notées qui viennent de mes clients. C'était juste la folie. Mais genre, j'ai même pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé pendant ce pop-up. J'étais transformée. Alors, j'étais de bonne humeur parce que ça marchait aussi, on va pas se mentir. Hein.
Quand ça va, on sent mieux, hein, oui.
Mais j'étais prête. J'avais mes prix sur mon corner, par exemple. J'avais mon pitch en tête. J'avais bossé l'installation de mon corner. Donc, j'avais fait dans mon salon quelques jours avant l'installation de comment serait mon corner sur place. Donc,
c'est ton stand.
Ouais. Donc, j'ai fait une photo dans mon salon de ce que donc, j'ai installé sur ma table de salon. J'ai fait une photo et en fait, j'ai plus eu à copier-coller quand je suis arrivée sur place. Donc, j'avais réfléchi à ça. Après, ça a bougé forcément parce que, encore une fois, comme le pitch, le corner, il y a des ajustements à faire sur fonction du chemin client. On teste des trucs sur place. Mais en tout cas, quand je suis arrivée devant mon stand, j'ai pas eu à dire alors. Comment je m'installe? Non, j'étais prête et je savais comment mes chaussettes allaient être disposées.
Et est-ce que la nuit juste avant d'inaugurer ton nouveau corner, mais cette fois-ci Sourire en mode souris, à ce même pop-up de Noël, est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que t'as pas été un petit peu hantée par ce qui s'était passé l'année d'avant?
Non.
Ça t'a pas flippé un peu.
Non, j'ai bien dormi. Après, je suis une grosse dormeuse. Hein.
Ouais.
J'ai pas beaucoup
avant, de bien dormi. Énorme.
Mais j'ai une petite nuit parce qu'en fait, c'était pendant les grèves. Et du coup, j'habite pas à Paris même. Et je me suis levée à 4h30, je crois, pour partir.
Ouais, la story que j'ai vue le premier jour de ton pop-up, je me suis dit, attends, parce qu'il est 7h, elle a déjà fait une story dans un café.
C'est ça. Je suis arrivée à peu près à 7h, effectivement, à Paris, en partant à 4h30, en étant dans les bouchons pendant 3h. Merci ma mère qui m'a accompagnée pour l'installation.
C'est très forte à quand même faire travailler, amener ta famille avec toi.
Et ma mère d'ailleurs recommence parce qu'elle sera présente sur. Je pourrais vous en parler après, mais c'est. Elle est ok pour faire les marchés avec moi. Donc se lever à 5h du mat le samedi alors qu'elle a travaillé toute la semaine. Du coup, heureusement
qu'elle est là.
Ma mère. Elle me dit quoi, mais t'as commandé que ça comme chaussette, mais vas-y, je te fais un chèque tout de suite, il faut que tu commandes 20 000 fois plus.
Maman, elle a trouvé sa première business en
disant calme-toi.
Faut les vendre quand même, hein.
Bah, il faut les vendre et puis voilà, ça va se faire petit à petit. C'est normal aussi, tu vois, je vais pas emprunter à la terre entière pour avoir 50 000 chaussettes, c'est pas possible.
Oui, puis tu démarres là, t'as un bureau, t'as tous tes stocks derrière ton bureau. Quoi,
oui, c'est ça. Bon. Oui, il y a un moment, mon bureau il est pas extensible.
C'est parti, gymnase.
Voilà, c'est clair. Ouais. Même si je peux empiéter dans le bureau de Flo,
s'il sera d'accord. Pourquoi tu veux empiéter dans la famille.
Voilà. Mais voilà. Non, et puis du coup, ce pop-up, c'était
une révélation.
C'était une révélation. Ouais. J'étais transformée avec un produit qui me ressemble. Voilà.
Et tu penses que ça vient que de ton expérience de l'année d'avant ou que ça vient aussi d'autre chose, cette posture un peu plus à l'aise?
Ça vient du produit.
Ouais. Est-ce que ça viendrait pas aussi de ton rapport à ton projet?
Ça vient du produit. Et ça vient forcément de mon échec avec mes chaussettes chéries, parce que j'étais prête pour ce pop-up. Vraiment, j'avais pensé à tout. Donc, il n'y a pas eu une mauvaise surprise. Enfin, j'étais rodée.
Mais est-ce que tu trouves que tu le pitchais mieux parce que c'était tellement plus toi aussi, ou pas?
Oui, parce qu'en plus, quand je disais tout à l'heure de préparer son pitch et tout, là, je ne l'avais pas écrit, tu vois, comme je l'ai dit. Je l'avais en tête. Et en fait, il s'est fait naturellement au premier client. Mais parce que peut-être que je le savais inconsciemment. C'est pour ça que je l'avais pas préparé. Parce que je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que je l'ai pas préparé parce que je voulais qu'il soit naturel, mais je me suis dit peut-être que je vais arriver devant mon premier client et que je vais pas savoir quoi dire. Et
en fait, peut-être que ça s'est préparé pendant des mois.
Ouais, peut-être.
Ouais, pendant septembre à décembre où tu t'es emparé de ton projet.
Je savais qu'il fallait que je dise pourquoi il est né, comment et tout, mais après les mots, dans quel sens et tout, ça je l'avais pas. Mais j'avais un plan déjà.
Et du coup, t'es allé beaucoup plus loin que sur le premier pop-up parce que là, t'es carrément allé sur la co-création avec ta communauté, quoi. Enfin, là, t'as vraiment une communauté dans le sens où ça, c'est le meilleur. Quand on se demande ce que c'est que d'avoir une communauté, tu disais, j'ai que 370 followers, mais à la rigueur, déjà, tu te dis, si tu les mets dans une pièce, c'est énorme.
Oui.
Et surtout, tu te dis, en fait, le vrai secret, c'est là où les gens sont engagés, c'est qu'ils ont envie d'avoir d'autres produits qui les créent avec toi. C'est de l'or, quoi.
Mais le partage, l'échange. La rencontre avec les clients était juste dingue. J'ai kiffé, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'ai adoré.
T'as pas la même tête d'ailleurs, je trouve, quand tu parles. Psychologiquement,
mais c'est vrai, et ma famille me dit, enfin ma famille, celle qui ne me voit pas tous les jours, en tout cas, m'a vue à Noël et me dit, Alice, il y a un truc qui a changé. Il y a un truc qui a changé. Bon, je sortais de 2 semaines de folie, j'étais crevée, je te disais tout à l'heure, je dormais à table à Noël, mais j'étais.
J'avais l'adrénaline.
J'étais une autre. Enfin, une autre. Moi-même, mais en mieux, quoi. Genre, au top de ma forme. Au top de mon positivisme, au top de tout, quoi.
T'es d'accord avec la phrase qui dit qu'on peut être plusieurs entrepreneurs dans une seule vie?
Oui.
Ça s'interprète comment pour toi? T'as été quoi comme entrepreneur?
J'ai été l'entrepreneur, je sais pas à fond. Peut-être qu'il y avait toujours peur. Peut-être que mes chaussettes chéries, j'étais pas à fond parce que j'avais peur. Je savais pas comment faire finalement. Peut-être que je m'étais préparée pendant toutes mes études à devenir entrepreneur, mais quand je l'ai été, en fait, peut-être que j'étais pas prête. Et le fait d'avoir fait plein d'erreurs, et voilà, il y a des entrepreneurs à. Je sais pas comment répondre à tes questions.
Est-ce que, par exemple, t'as démystifié ta peur de l'échec? Dans le sens où, avec les chaussettes chéries, t'as pas fermé la boîte, mais t'as fermé vraiment le format clé.
Ouais.
Et tu t'es dit, en fait, ça va, au pire, les gens vont pas me jeter des bananes pourries parce que j'arrête la marque, personne me clash, enfin. Tu t'es rendu compte que c'était pas si grave, en fait, d'avoir un.
C'est juste, faut l'accepter soi-même.
Ouais.
Mais les autres, en fait, ils s'en foutent. Enfin,
complètement.
Voilà, et moi aujourd'hui, j'ai vraiment pas peur. Et je suis même contente de raconter cette histoire de ce pop-up qui a été foireux. je sais pas pourquoi je suis contente, mais en fait je suis sûre que ça peut aider d'autres. Et je l'ai raconté pendant le pop-up de Noël là, avec la nouvelle marque. À côté de moi, il y avait une marque avec des fondateurs qui étaient aussi un peu réservés. J'ai eu l'impression de me voir, et du coup toujours dans la bienveillance, je suis allée les voir et je leur ai raconté mon histoire du pop-up passé et tout. Et en fait, elles m'ont dit pas. Et parce que ça me faisait mal en fait pour eux de voir qu'ils avaient un super produit et tout, mais ils étaient, bah, j'avais l'impression de me voir et ça me faisait mal. Donc du coup, je leur ai raconté. Et j'ai pas honte.
Et je l'accepte. On dit souvent, donc on disait depuis le début que Sourire avant d'être sourire, c'est vachement ton projet, c'est vachement toi et tout. T'as mis de toi dedans, c'est tes couleurs à toi, de comment tu t'habilles, ton style un peu, genre la chaussette blanche, mais avec la punchline bien posée au bon endroit. Et en fait, je me demande toujours, tu vois, à quel point donc l'entrepreneur nourrit le projet, le vrai projet coup de cœur, mais à quel point le projet coup de cœur change aussi l'entrepreneur. Dans le sens où nous, ça fait quand même, bon, à l'échelle de l'entrepreneuriat, une éternité qu'on connaît. Parce que ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Non, on s'est rencontrés début janvier, le 3 janvier 2019, je crois. Ah oui, et là, il a peur que je connaisse la date, t'as dit pourquoi. Et est-ce que...
Non, c'est faux. On a enregistré un podcast ensemble en fin 2018.
Mais non, c'était début 2019. C'était chez les boudeuses.
Bah oui.
C'était juste à la rentrée des vacances.
Ah ouais, j'ai
fait 2018. Ça m'a hanté pendant tout le temps. Non, parce que t'étais malade au début, on devait l'enregistrer en décembre, mais t'étais malade.
Ah bah tu vois.
C'est l'instant logique.
Ouais. Bon.
Et en fait, j'ai l'impression, mine de rien, de pas avoir la même Alice. Et de. Si je t'avais interviewé il y a un an, je pense qu'on n'aurait pas ressorti les mêmes choses de l'interview.
J'aurais pas eu autant d'échecs, d'où j'aurais eu moins de choses à raconter.
Mais je trouve qu'au-delà de ça, t'aurais peut-être été un peu plus. Genre, comment dire ça, t'aurais été un peu plus... t'aurais été plus mes chaussettes chérie dans ta façon de mener l'interview. T'aurais été un peu plus, genre, cadré, en mode cadré, plus lollipop, tu vois, plus choupinou. Ouais. Et là, je trouve que t'as un côté plus... je vais pas m'excuser non plus d'avoir un vécu, quoi.
Non, mais c'est ça. Et en plus... Non, mais t'as raison. C'est...
La thérapie gratuite. Toutes les semaines, ça finit pareil. Je me disais, dis donc, ça tarde dans l'épisode. Non, c'est vrai. Je trouve qu'il y a un truc qui a un peu changé aussi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'au-delà de ton projet qui a changé, on te trouve, ça sent que t'es plus à l'aise, quoi. Que t'es moins, enfin, tu t'excuses plus d'être là, tu vois, que t'es plus affirmée, quoi.
Et en plus, mon produit sert à me passer, enfin voilà.
Exactement, c'est là où l'un et l'autre, vous travaillez ensemble. Parce que...
je suis, même moi je le sens, hein. je suis pas la même. Enfin, je suis la même, mais.
Oui, mais t'évolues, ça révèle d'autres choses chez toi.
Ouais.
Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ta réalité entrepreneuriale du moment complètement improbable ? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie d'entrepreneur ?
Eh ben, je me fais chier.
Elle m'a pas assez de travail.
Rebelote. Non, c'est dans le bon sens, pas que je vais arrêter sur la matière. C'est juste que j'ai tout vendu et que j'ai plus de stock.
Elle a plus de stock. Elle a déjà tout vendu.
Et du coup, bah, je peux plus vendre sur mon site. Je peux plus vendre aux revendeurs qui veulent m'acheter des paires.
Parce que tu vends dans des magasins physiques.
Oui,
aussi.
Encore. Enfin, encore. J'en ai 3-4 là pour le moment. Mais oui, j'ai quelques revendeurs. Donc ça, c'est cool. C'est quelque chose que je découvre, j'avais pas du tout avec mes chaussettes chérie, donc là ça aussi c'est un truc trop bien que je découvre. Mais du coup voilà, là c'est un peu j'attends, je reçois ma prod dans 10 jours, donc ça sera fin février à peu près. Mais du coup là c'est un peu voilà,
c'est un peu étrange, quoi. On s'attend peu à ça dans une finance.
Parce que je fais quoi, je je peux faire des milliers de stories sur Instagram, vous montrer tous mes produits et tout, mais de toute façon, vous pouvez pas les acheter. Enfin, je dis vous, mais voilà, on peut pas les acheter. Soit je contacte plein de revendeurs, mais de toute façon, s'ils me disent « Ah ouais, je peux vous acheter plein de trucs », en fait, j'ai rien à leur envoyer. Ou alors, il faut attendre au moins 10 jours pour quelques modèles et rebelote au moins 5 semaines pour avoir vraiment une nouvelle collection complète. Donc, bah voilà. voilà, je profite du beau temps.
Je profite du réchauffement climatique. Et... là, ça fait du coup quand même déjà 4 mois que t'es sur Sourire à notre sourire, même 5 mois. Qu'est-ce que t'as appris déjà en 5 mois sur cette aventure, sur ce morceau-là de ta vie d'entrepreneur?
J'ai appris, je pense, à être moi-même déjà. Ça, c'est. Je pense que c'est. Là, je revois la Alice timide de avant le lycée, enfin lycée, avant le lycée et tout. Et en fait, je pense que je suis aujourd'hui comme j'ai toujours voulu être, et comme je regardais les gens dans la rue et je me disais, putain, j'aimerais bien un peu être comme elle, avoir son assurance. Je suis pas hyper. Parfois, j'ai des rechutes complètes, je peux être tétanisée dans certaines situations.
Ouais, t'inquiète.
Mais beaucoup moins. Beaucoup moins, et du coup, je revis un peu. Je vis.
T'as l'impression que ce projet, c'est un pur révélateur, en fait.
Vraiment. Et voilà.
Comment tu vois l'avenir, du coup ?
Ah oh bah là, moi, l'objectif, c'est... On parlait de la stratégie tout à l'heure, du coup...
On en a pas parlé, du coup. C'est quoi ton revirement stratégique après le pop-up store ?
Et bah, moi qui voulais être une marque digitale, DNVB...
DNVB.
DNVB, début décembre. Et bah, le fait d'avoir rencontré tous ces clients et d'avoir vu que mon produit plaît et qu'en plus, quand je suis moi physiquement présente et que je raconte l'histoire et qu'on déconne et qu'on parle et qu'on refait le monde et tout avec eux... Et ben en fait, c'est juste génial. Du coup, revirement de situation, ma marque ne sera plus du tout digitale. Alors oui, j'aurai un site et oui, je continue d'avoir un Instagram.
Oui, t'as quand même un e-commerce, mais...
Voilà, mais toute mon année 2020... Donc en fait, j'ai fait ça en janvier quand même. Toute mon année 2020 est prévue et rythmée par des événements physiques. Et j'ai décidé de pas me prendre la tête à poster tous les jours sur Instagram parce qu'il faut de la régularité, parce qu'il paraît que c'est ça qui fait vendre et parce que voilà. Ben non. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas posté, par contre. Mais en fait, je pense que c'est la meilleure décision pour la boîte, en fait. Genre, je vais pas m'acharner, je vais pas mettre de l'argent dans du Facebook Ads où on peut en perdre trop facilement. Je vais pas me démoraliser quand je vois plein de marques qui naissent sur Instagram où c'est un peu la jungle, hein, quand même, pour sortir sur Instagram.
Ouais.
J'ai pas encore vu de nouveaux réseaux sociaux sur lesquels je pourrais être un petit peu, novatrice et tout.
Il y a TikTok.
J'ai essayé... je vais fermer mon compte. Je pense que c'est une bonne décision pour la boîte, pour le business en tant que tel, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment vu que je vendais bien, mais c'est aussi une décision pour moi, c'est-à-dire que je m'éclate et je suis bien quand je fais ça, et voilà, et que finalement je suis moins bien quand je fais un post ou quand je suis en train de regarder mon nombre de likes, ou tu vois, genre. Donc c'est pour la boîte et pour moi, et ben voilà, je serai pas une boîte 100% digitale. Je serais une boîte à 90% digital, 90% physique.
Et est-ce que tu penses aussi que c'est parce que tu es un peu plus à l'aise pour le contact direct aussi ? Qu'avant, le côté digital, ça pouvait aussi te mettre à l'abri d'une certaine relation client qui te pouvait, ou relation commerciale qui pouvait te stresser ?
Non, je pense pas. Mais je pense que j'avais en fait, tu sais, on a en tête les DLB, un modèle, l'école de commerce, tout ça.
Comment il faut faire pour monter sa boîte, machin.
Moi, si je peux ouvrir une boutique dans le dur, je le ferais.
C'est ça ton dernier rêve,
en fait.
C'est ça.
Ouvrir
un magasin physique.
Pas un magasin physique connecté, pas un magasin physique.
Un magasin.
Juste, voilà. Avec des rayons. Clients sur rue et genre les clients qui passent et qui vont s'arrêter par hasard devant. Et voilà.
Et pourquoi c'est ça ton nouveau grand rêve ?
Oula. je sais pas.
Parce que ça te plaît finalement d'avoir quelque chose de tangible ? Est-ce que ça te plaît de pouvoir rencontrer tes clients ?
Ouais, c'est ça. C'est d'avoir... Et puis de sortir un peu de ce schéma aussi, peut-être, du genre, faut être sur Internet, non.
On a le droit de faire autrement.
On a le droit, il n'y a pas une seule voie, tout le monde est sur Internet, et bah moi j'y serai moins.
Exactement. Voilà. Et puis quand tout le monde est quelque part, c'est ce qu'on se dit juste avant l'enregistrement, il faut commencer à se dire qu'il faut être ailleurs, quoi.
C'est ça. Et ailleurs, pour l'instant, comme je disais, j'ai pas trouvé de nouveau réseau qui va révolutionner...
Quand il y a un réseau social, c'est toi.
C'est ça. Voilà. Donc ouais, si je peux... Alors pas tout de suite, hein, mais si je peux... Là, je participe à quelques pop-up dans l'année, je vais faire des marchés.
Tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver cette année, si tu t'as déjà...
Oui, j'ai déjà... Alors, j'aimerais bien refaire la famille du Père Noël.
En
décembre. Je fais le salon du Midi de France, du 6 au 8 novembre.
Okay.
Je vais faire des marchés aussi toute l'année. Je serai au BHV fin février.
À Paris.
Enfin
là, c'est tous à Paris, du coup.
Oui, là, c'est à Paris, mais les marchés, ça sera en région parisienne et je fais une tournée des marchés sur l'île de Ré, probablement, à vérifier.
T'as bien que ça passait là-dessus, non ?
Si des créateurs veulent se lancer dans l'aventure des marchés, mais pas tout seul, parce que je sais que c'est un peu sortir de sa zone de confort et tout, mais du coup moi j'aimerais bien louer effectivement un Airbnb sur l'île de Ré et faire les marchés pendant 2 semaines, ça serait juillet ou août. J'ai quelques touches déjà, donc c'est cool, mais voilà, j'aimerais parce qu'en fait moi clairement en fait je me fais chier au mois d'août je me fais beaucoup chier quand même.
Ouais, mais parce que t'as envie d'encore plus.
Mais le mois d'août, pour moi, le mois d'août, c'est une catastrophe. C'est la dépression totale. Rien n'avance. La France est paralysée. C'est horrible. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de... Et en plus, là, je suis à temps plein. Alors qu'avant, j'étais salariée.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que mon projet n'avançait pas, mais au moins, je m'occupais dans la journée.
Ouais.
Là, je suis à temps plein. Donc, si mon homme est bah, salarié aussi, peut-être qu'il aura pas ses vacances, qu'il vient de changer.
Ouais.
Moi, si je suis à ruminer tout le mois d'août chez moi,
qu'il y a une vente, ouais, c'est horrible.
Ça va être horrible. Donc, du coup, j'aimerais partir sur les routes pour faire le marché.
Voilà. Trop bien. Et les marchés de région parisienne, ce serait où que tu vas faire toute l'année?
Plutôt 78.
Ok, donc les Yvelines.
Ouais.
Ok.
Et ça, je sais pas encore sous quel rythme. Ce sera les week-ends, pas en semaine.
Ok, ça marche. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si, par exemple, donc, on voudrait aller à l'île de Ré tenir un stand avec toi, si on veut t'acheter des chaussettes quand il y a restock.
Si, j'ai quelques paires en stock. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup.
Hein. Dépêchez-vous.
Ouais.
Si on veut juste te dire bah voilà, plus une rencontre entrepreneuriale, si ton parcours, enfin, c'est sûr que oui, mais pour les personnes qui se reconnaissent aussi dans ton parcours et qui ont envie d'en discuter plus avec toi, où est-ce qu'on te parle, où est-ce qu'on va?
Partout, j'ai mon site hein, sourireennotesorry.com avec des tirets partout,
tiret du 6
mmh. partout, mon Instagram sourireennotesorry, mon LinkedIn, voilà, vous pouvez
tu peux dire ton nom,
c'est Alice de Guyenrot, c'est un peu compliqué, ouais, passer par Instagram.
Non mais attends, je vais te présenter comme Alice de Guyenrot et comme ça, voilà. Et t'as ton Insta pro qui est, enfin toi t'as un Insta qui s'appelle Alice de Guyenrot mais qui est un Insta professionnel, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mmh. Vous pouvez vous contacter soit sur le pro, enfin
ouais.
Soit bah c'est deux pros, soit,
ouais,
voilà, soit le Alice, soit le Sourireennotesorry.
C'est ton Instagram d'entrepreneuse, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok. Trop bien, donc on peut te retrouver pas dans tous ces merveilleux coins des internets et dans ces coins de la vraie vie. Et pour conclure l'histoire, c'est ta tribune, est-ce que tu as un message à faire passer à la LVD Family? Alors, je dis toujours, dans la vraie dose, on a beaucoup de recul sur le côté conseil parce qu'il y a toujours énormément de projections. Mais plus si tu as un message à faire passer, une citation que tu adores ou juste une pensée, un truc pour envoyer une vraie dose d'énergie entrepreneuriale à la LVD Family.
Oui, c'est ce foutu syndrome de l'imposteur.
Ouais.
On n'est pas des imposteurs. On sort un projet de nos tripes et donc du coup, faut l'assumer et faut le porter et portons-le chacun à notre façon en fait. Et si ça marche pas, ça marche pas et il n'y a pas de problème et on sera pas un imposteur pour autant de créer un autre projet. Et voilà. Faut accepter tout ce qui vient de nous. Donc. C'est compliqué, hein, mais c'est peut-être pas de le dire une fois de plus qui va faire changer les choses, mais il faut pas avoir honte de ce qu'on est.
Exactement. Et puis, comment on pourrait être un imposteur alors que le projet vient de nous, tu vois?
Ouais.
On est forcément la meilleure personne pour le porter.
C'est ça. Il serait pas là sans nous.
Exactement. Bon, bah, je crois qu'on peut faire des gros bisous à la LVD Family là-dessus.
Ouais.
Merci beaucoup, Alice, pour ton parcours, ta sincérité, et on kiffe la Alice de Sourire en mode sourire.
Merci, Sarah, à toi.